Alors bonjour, ravi de voir que l'histoire des religions continue à intéresser et également sur la Renaissance, puisque nous avons aujourd'hui pas mal de nouveaux inscrits pour ce cycle, pour donner l'entièreté de ce cycle, ce qui est un peu particulier. Ce sera Madame Aline Gossens, parce qu'il n'y a pas énormément de spécialistes des questions religieuses à la Renaissance en Belgique, même si les questions religieuses, aussi bien cette fois-ci sur les guerres de religion et le protestantisme que la prochaine sur la sorcellerie, sont des sujets assez important à l'époque. Alors, juste deux mots, Madame Gossens est docteure en histoire de l'ULB. Elle est spécialiste notamment des questions religieuses à la Renaissance et dans nos régions encore plus particulièrement. Elle a été pendant 10 ans chercheuse à l'Institut d'études des religions et de la laïcité de l'ULB. Actuellement, elle est attachée à la communauté française dans l'une des cellules stratégiques et elle est particulièrement chargée des questions de santé, sécurité, bien-être, égalité des chances et développement durable. Alors, dans ses publications, elle a écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Inquisition à la Renaissance. Elle a également écrit une biographie du comte d'Edmond. Et en tant que collaboratrice scientifique à la Bibliothèque royale Albert Ier, elle poursuit actuellement ses recherches sur l'image politique et religieuse de Charles Quint. Je lui cède tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Il n'y a pas de résonance? Voilà. Donc effectivement, c'est un peu particulier d'inaugurer un thème qui n'aura que 2 conférences et dont je donne les 2. Je m'en excuse un petit peu auprès de vous, mais bon, voilà, ce sont les choses qui se sont présentées ainsi. Donc en fait, ces 2 exposés vont quelque part s'interpeller, pas se suivre réellement, mais s'interpeller, puisque la question religieuse, évidemment, à la Renaissance, ou grosso modo, on va dire, depuis la fin du XVe siècle, pour être un peu généreux, dans la limite chronologique vers l'arrière, jusque, moi j'ai situé ici 1633 tout simplement parce que c'est la fin du règne des archiducs Albert et Isabelle et que cette période marque la fin d'une époque tout simplement. Donc sur cette période-là que nous allons travailler aujourd'hui uniquement, si j'oserais dire, sur les questions des protestantismes et du mécanisme répressif qui a été mis en place pour les contrer, c'est-à-dire les inquisitions. La prochaine fois, donc dans 15 jours, on reparlera, je vais dire évidemment, de l'Inquisition, puisque la répression des idées religieuses et culturelles, on dirait aujourd'hui, évidemment est aussi de la dépendance de l'Inquisition et des évêchés du pouvoir religieux, mais là sur une période chronologique un petit peu différente, dans le sens où on parlera là du milieu du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Donc là, vous verrez effectivement qu'il y a, je dirais, beaucoup de choses communes entre les deux, mais aussi des divergences. Et c'est pour ça qu'on va traiter, je vais dire, les 2 thèmes qu'on aurait pu traiter ensemble, effectivement. On va les traiter ici par facilité, oserais-je dire, séparément. Alors, espace géographique, bien entendu, tout à fait défini. Pourquoi ? Parce que je n'ai qu'une petite heure pour vous, donc on ne sait pas parler évidemment de l'Europe entière, des questions du protestantisme, il aurait fallu encore plusieurs heures de cours pour ça. Donc on va se concentrer spécifiquement sur les anciens Pays-Bas, donc nos régions, les Pays-Bas bourguignons, on va dire grosso modo, je vais vous donner une carte dans quelques instants, dans laquelle donc nous allons travailler ces questions-là. Alors, première petite chose, il y a quelques petits slides, je sais qu'il y a beaucoup de textes, mais bon, ça me sert un petit peu de mémo aussi. Donc d'abord, définir qu'est-ce que c'est que l'hérésie. Alors l'hérésie est un concept ancien, très ancien même, presque aussi ancien que l'Église elle-même, puisque dès le départ, l'Église définit une doctrine, définit des lignes directrices religieuses, et forcément, tout ce qui s'en écarte doit être classifié, dénommé, nommé, Et donc, l'hérésie apparaît, le concept d'hérésie apparaît dès le 2e, 3e siècle de notre ère. Alors, évidemment, ce n'est pas de ce concept-là qu'on va parler tout à fait aujourd'hui. La seule chose, c'est que, sachez que le concept qui est utilisé à la Renaissance est double. Alors, d'une part, il y a cette idée historique qui remonte effectivement à l'Église des origines et qui est inscrite dans le droit canon et qui dit est hérétique celui qui se révolte contre le magistère de l'Église, niant une vérité objectivement révélée. Donc ça, c'est ce qui est inscrit effectivement dans le droit canon. Donc ça veut dire concrètement que toute personne qui refuse le magistère de l'Église, alors le magistère de l'Église, c'est quoi? C'est l'institution en tant que telle. C'est l'autorité de l'évêque, l'autorité du prêtre, l'autorité du pape. Donc là, vous avez un aspect d'emblée qui n'est pas un aspect, oserais-je dire, purement religieux, mais qui est déjà un aspect politique. Donc ça, c'est quelque chose de très important à remarquer, c'est que dès le départ, l'Église donc, se définit comme une institution non seulement religieuse, mais une institution politique, donc qui veut régir la cité, dans le sens ancien du terme. Mais alors, s'ajoute à cette négation de ce rôle politique aussi, évidemment, la vérité révélée, donc l'Écriture, la Bible, toute la littérature patristique qui en est issue et qui est considérée comme faisant partie du corpus global de l'Église. Donc, non seulement vous avez une révolte contre l'aspect politique de l'Église, mais aussi contre l'aspect religieux, contre les écrits. Alors, au départ, il y a une évolution qui s'est produite depuis le IIe siècle, évidemment. Vous avez, au départ, comme seul texte révélé, c'est la Bible et les Évangiles. Donc là, c'est assez simple. Et puis, il va s'ajouter, au fur et à mesure du temps, toute la patristique. Donc, tous les écrits qui vont être reconnus, au fur et à mesure du temps, comme étant dans la continuité ou dans l'exégèse des textes révélés, vont s'ajouter à ce corpus. Donc, vous pouvez très bien trouver la situation où, par exemple, les cathares sont un bel exemple, pour en prendre un qui est très connu. D'un côté, évidemment, ils respectent la Bible, ils respectent les évangiles, ils les reconnaissent comme étant une vérité révélée, mais au sein même de la patristique, ils refusent certains textes. Ils réfutent l'aspect, je vais dire, révélé d'un certain nombre de pères de l'Église. Et donc, pour cela, ils sont hérétiques. Ce qui veut dire aussi, par extension, que vous pouvez être croyant en la révélation et puis rejeter un père de l'Église, et tout cela suffit évidemment à faire de vous un hérétique. Donc ça, c'est, je vais dire, le socle idéologique sur lequel se fonde effectivement l'idée d'inquisition qui, je le rappelle, au départ, la première inquisition est fondée dans les années 1230. Contre l'hérésie cathare, contre les albigeois, but politique, but religieux, je vais m'étendre sur cette partie-là, je pense d'ailleurs qu'on en a parlé l'année passée pour ceux qui avaient suivi les cours de l'extension de l'année passée sur le Moyen-Âge. Et donc là, vous aviez effectivement l'émergence d'une institution, donc l'Inquisition, qui servait à la fois, comme l'indiquait le droit canon, un but politique et un but religieux. Cette institution tente à disparaître lentement, tout simplement parce que l'opposition rentre, je vais dire, soit se camoufle suffisamment bien qu'elle n'apparaît plus, et l'utilité de l'Inquisition en tant que telle n'est plus aussi évidente et n'a plus le soutien de la papauté de la même manière qu'au XIIIe, XIVe siècle. Donc vers le XVe siècle, l'Inquisition existe toujours, elle n'a jamais été à ce moment-là abolie, mais elle est en sommeil. Puis d'autre part, vous avez aussi le fait que, comme étant une institution politique, l'Inquisition médiévale heurte la volonté des princes et des rois qui prennent de plus en plus, d'autonomie par rapport à l'Église, et heurte leur volonté d'indépendance par rapport à un pouvoir politique de l'Église. Et donc, ces deux états de fait font qu'effectivement, cette Inquisition pontificale médiévale est plutôt donc mise en sommeil à partir du XVe siècle. Elle va ressurgir, bien entendu. Elle va ressurgir à la Renaissance pour une raison très simple, c'est que le XVe siècle est une époque d'hérésie, de nouveau, comme l'ont été l'an 1000, comme l'ont été le XIIe siècle avec les cathares. Et donc le besoin d'une nouvelle institution chargée de réprimer ces hérésies nouvelles se fait jour. Donc, je vais étendre cet aspect dans quelques instants. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le droit canon va suivre en fait cette évolution et va introduire une nouvelle notion à l'intérieur de la définition du mot de l'hérétique. Simplement que, comme on est dans un contexte de conflit à l'intérieur de la chrétienté, et qu'on voit se définir deux blocs grossièrement dessinés, d'un côté les protestants, et de l'autre l'Église catholique, et bien simplement, dans le droit canon, on va transformer la foi chrétienne, la notion de foi divine, de foi chrétienne, par celle de religion catholique. Donc là, pour bien affirmer effectivement que la seule entité religieuse, oserais-je dire, à l'époque, qui détient la vérité, c'est la papauté de Rome, c'est la religion catholique. L'inquisition moderne est aussi différente de l'inquisition médiévale dans le sens où elle va se caractériser, je vais dire, par une multitude de tribunaux. Donc, l'inquisition médiévale, grosso modo, pouvait la considérer comme étant une institution qui a des petits satellites suivant les espaces géographiques où elle doit opérer, qui dépendent des princes séculiers, qui sont sous, je ne vais pas dire sous leur autorité, mais sous leur soutien, indéfectible. Le contraire est tout autre avec l'inquisition moderne, qui, elle, c'est pour ça que d'ailleurs dans le titre j'ai mis le pluriel, pour moi il faut parler des inquisitions. Vous avez des types d'inquisitions qui sont différents. Plus connu, qu'on connaît à peu près tous, c'est l'inquisition espagnole. Donc, qui apparaît sous le règne de Ferdinand et d'Isabelle la catholique, donc en Espagne surtout, en Castille et en Aragon, qui sont les terres principales sur lesquelles se construisent le royaume espagnol dans les années 1480. Et cette institution, donc dite inquisition espagnole, apparaît comme étant une structure héritée effectivement de l'inquisition médiévale, avec la seule différence notable que l'inquisition espagnole est aux ordres des rois d'Espagne et n'est pas finalement aux ordres de la papauté. Donc vous avez ici, au niveau de son caractère politique, un changement fondamental qui fait d'un tribunal ecclésiastique, au départ indépendant du pouvoir politique, un nouveau tribunal ecclésiastique qui est sous la coupe du pouvoir politique du prince séculier, ce qui est extrêmement, évidemment, différent de l'inquisition médiévale, et qui va conduire d'ailleurs à toute une série d'abus et de problèmes, mais qui va paradoxalement garantir sa pérennité, puisque l'inquisition espagnole ne sera abolie qu'au milieu du XIXe siècle. Vous avez ici, évidemment, une histoire qui est tout à fait différente, sur laquelle vous m'excuserez non plus, je ne vais pas pouvoir prolonger aujourd'hui. Alors, vous avez donc une inquisition en Espagne. Par contamination, oserais-je dire, parce que le royaume d'Espagne conquiert le Portugal et que vous avez une unicité géographique qui se fait, vous allez avoir une inquisition au Portugal également, qui est aussi une suprema, mais qui est légèrement différente. Et puis, vous allez avoir encore une autre inquisition, qui est l'inquisition dans les villes italiennes, en Italie, dans les territoires pontificaux, mais aussi dans ces territoires. L'histoire de l'Italie est très compliquée au XVIe siècle, vous avez beaucoup de morcellement de territoires, et ce tribunal, je vais dire, italien, va lui être attaché aux principales villes italiennes. Et, contrairement à l'inquisition espagnole, est l'héritier en titre direct de l'inquisition médiévale. Donc c'est effectivement un tribunal d'église sous l'autorité du pape. Donc vous voyez, vous avez déjà à la même époque deux systèmes qui coexistent. Et pour corser le tout, vous en avez un troisième, qui est celui qui va être actif dans nos régions entre grosso modo 1520 et, je vais dire, 1630, 1640, qu'on appelle aussi un tribunal d'inquisition, et qui, lui, se rapproche beaucoup plus de l'inquisition espagnole, dans le sens où c'est un outil politique aux ordres du souverain, c'est-à-dire concrètement, principalement, de Charles Quint et de Philippe II. Alors, une petite parenthèse, l'inquisition italienne, dans ces villes italiennes, s'appelle la Congrégation du Saint-Office. Donc, elle a été fondée en 1542 par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Ignace de Loyola, donc fondée par les jésuites, comme organe suprême de surveillance de la doctrine aussi à l'intérieur de l'Église. C'est pour ça que le pape a choisi de le confier aux jésuites dans le sens où n'étant pas un ordre monastique ancien, mais bien une création nouvelle, il avait, si vous voulez, il était pur, il n'était entaché d'aucun soupçon d'hérésie ou de pouvoir. Il dépendait, créé par le pape, il ne dépendait que du pape. Et donc ça, c'était la vocation de cette congrégation, qui, je le signale, existe toujours, hein, qui s'appelle aujourd'hui la Congrégation pour la doctrine de la foi, et qui a été dirigée pendant plus de 30 ans par Mgr Ratzinger, aujourd'hui pape, bien entendu. Alors, qu'en est-il effectivement dans nos régions à ce moment-là? Donc, on va retourner un petit peu en arrière, on va faire un tout petit peu d'histoire générale pour être sûr qu'on est bien tous dans le même cadre géographique. Donc, voilà ici la carte des anciens Pays-Bas, donc à peu près vers, je vais dire, ici c'est 1609, on a introduit, c'est une carte un peu plus ancienne. Mais donc, en 1520, globalement, quand Charles Quint va instaurer cette inquisition, quand les premiers écrits protestants entrent dans nos régions, eh bien, nos régions, sous l'égide de Charles Quint, évidemment, comportent les actuels Pays-Bas, comportent la Belgique, bien entendu, tout le nord de la France, que je vais dire quasiment jusqu'à Saint-Quentin, Arras, Cambrai, toutes ces régions aujourd'hui qui nous paraissent plus vraiment belges, mais qui l'étaient bien entendu à l'époque. De l'autre côté, vous excluez évidemment de la Belgique la principauté de Liège, qui elle est dirigée par un prince évêque qui, si effectivement il entretient des liens très proches avec Charles Quint, a un système complètement différent de gouvernement et un système d'inquisition totalement différent, dont je parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Vous ajoutez également toute la partie qui est aujourd'hui du côté de la frontière allemande, donc du côté de Maastricht, toutes ces cantons qui aujourd'hui sont soit aux Pays-Bas, soit en Allemagne. Et vous avez donc ce cadre géographique immense, pour nous aujourd'hui belges évidemment, qui paraît immense, mais qui est, je vais dire, la réalité dans laquelle donc cette répression et ces protestantismes vont se développer. Alors, vous avez une ligne, évidemment, ici, vous voyez une petite ligne en pointillé qui part à peu près de Sluis, hein, juste au-dessus d'Anvers, et qui part. Ben, ça, c'est la fameuse frontière, bien entendu, historique, créée par la guerre entre les Pays-Bas du Nord et les Pays-Bas du Sud, par la révolte du prince d'Orange, du comte d'Egmont et tout cela, dont je parlerai un tout petit peu tout à l'heure, et qui est évidemment la plus grande conséquence, pour nous en tout cas, de ces guerres de religion et de ces problèmes suscités par le protestantisme. Alors, on va peut-être en quelques instants également recadrer la géographie religieuse aussi de l'Europe, dans laquelle nos territoires s'inscrivent à l'époque. Bon, vous voyez évidemment on parle de multiculturalité aujourd'hui, mais la multiculturalité, elle était déjà là au début du XVIe siècle. Donc vous avez, c'est une carte ici qui date à peu près, je vais dire, des années 1580, donc on est déjà un peu au-delà, mais je n'ai pas une carte plus explicite que celle-ci. Et donc vous avez toute une série dans les couleurs qui ont été représentées, toutes les, je vais dire, les religions qui sont présentes dans l'Europe au milieu du XVIe siècle. Donc vous avez bien entendu en blanc, ce qui est encore évidemment majoritaire, ce sont les catholiques. Alors, en rouge, vous avez la Wittenberg au milieu, évidemment, une grande partie de l'Allemagne actuelle, de la Hongrie, de la Tchéquie, etc., vers la Pologne, vous avez toute la partie des luthériens. Donc, la réforme luthérienne, fondée par Luther et ses fameux écrits dans les années 1507-1510 au départ, et puis qui, je vais dire, explose littéralement dans les années 1517-1520. Donc, première réforme, la réforme de Luther, suivi ensuite par ce qu'on appelle les réformés ou les calvinistes, dont vous voyez ici en vert, en hachure verticale et en vert, la présence, bien entendu, sur une partie de la France, puisque Jean Calvin était français, mais aussi sur la Suisse, puisque c'est, comme vous le savez, à Genève, que le grand réformateur Calvin s'est réfugié au milieu des années 1530 face à la répression menée par François Ier. Vous avez là une deuxième réforme, puisque, comme vous savez, idéologiquement, je vais dire, elles sont très proches, mais il y a quand même des différences notables, donc on est obligé, historiquement, de les séparer. Alors, comme rien ne va jamais seul, vous en avez une troisième dont on a beaucoup parlé cette année-ci, puisque, bon, peut-être un peu moins dans nos régions, mais pour les historiens de la Renaissance, c'était une année importante, puisqu'on a fêté Henri VIII cette année-ci. Donc, 1508, c'est la montée sur le trône d'Henri VIII d'Angleterre, donc, dont on a fêté cette année, évidemment, l'anniversaire. Donc, vous avez toute l'Angleterre ici, une toute petite partie de l'Irlande, qui sont, bien entendu, passées à l'anglicanisme. Anglicanisme qui est différent, je vais dire, des deux autres mouvements réformés, dans la mesure où ici c'est plutôt un mouvement politique plutôt qu'idéologique. Tout le monde connaît l'histoire des six femmes d'Henri VIII, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais dire la pierre d'angle de l'anglicanisme, c'est de donner, si vous voulez, la responsabilité religieuse, l'autorité religieuse, non pas à un religieux, mais au roi d'Angleterre. Et donc vous avez, je vais dire, une troisième forme possible ici de protestantisme, puisqu'en général, on regroupe l'anglicanisme également dans ces mouvements-là. Alors vous en avez, puisqu'on est là pour raffiner les choses un petit peu, vous en avez encore un quatrième, qui sont les Hussites. Alors les Hussites, c'est un mouvement qui a été créé au milieu du XVe siècle par Jean Hus, qui est un réformateur tchèque. Et donc, vous voyez ici que ce mouvement se tourne, je vais dire, autour de Prague, et qui, lui, on le considère en général comme un pré-réformateur, c'est-à-dire qu'il aurait simplement inspiré, si vous voulez, les écrits d'abord de Luther et ensuite de Calvin, puisque l'objet principal des écrits de Jean Hus, c'était vraiment d'abord la dénonciation de l'enrichissement abusif de l'Église et de l'appauvrissement général des populations, et aussi le fait qu'il existait réellement et concrètement une dichotomie entre la manière de vivre des ecclésiastiques en général et, je veux dire, la parole chrétienne telle qu'elle était donnée aux fidèles. Donc ça, c'est vraiment, le point d'ancrage de Jean Hus, et qui a mené d'ailleurs, en premier lieu, on pense souvent que c'est Luther, mais ce n'est pas tout à fait le cas, à ces fameuses guerres de paysans, ces guerres paysannes, qui se sont produites, je vais dire, surtout dans le sud de l'Allemagne, dans les années 1510-1520, et qui ont culminé au début du luthéranisme également. Donc là, vous voyez aussi que ces mouvements s'interpénètrent, ces mouvements d'idées s'interpénètrent. Alors pourquoi s'interpénètrent-ils et pourquoi se connaissent-ils si bien? Simplement parce qu'il y a un facteur important qui est apparu dans les années 1480, c'est l'imprimerie. C'est ça qui fait aussi la différence par rapport aux mouvements, je vais dire, dissidents ou hérétiques du Moyen-Âge. C'est que ces mouvements ne pouvaient se transporter, je vais dire, que de parole d'homme à parole d'homme, tandis que ces mouvements protestants, eux, se répandent à travers l'Europe extrêmement rapidement grâce à l'imprimerie. Alors, vous avez encore, pour terminer l'analyse de cette carte, évidemment, d'autres mouvements religieux. Vous avez les orthodoxes, bien entendu, depuis le grand schisme. Donc cela, je veux dire, ici, ne nous pose pas tellement de problèmes, donc on va les laisser sur le côté. Et l'autre grand mouvement qui gagne, évidemment, de l'ampleur, même s'il en a un petit peu perdu, je vais dire, à cause des Espagnols, c'est évidemment les musulmans. Ce sont évidemment les musulmans. Donc qui ont quitté ici, momentanément, c'est une carte du milieu du XVIe siècle, qui ont quitté ici le territoire européen, mais qui vont y revenir. Comme vous le savez, au XVIIe siècle, vous aurez des poussées musulmanes via la Turquie jusqu'à Vienne, siège de Vienne 1680. Donc c'est un mouvement qui ici, je vais dire, ne nous concerne pas, mais concernera le siècle suivant. Alors vous avez un mouvement qui ne figurait pas sur la carte précédente, parce qu'elle était vraiment concentrée sur les protestantismes et les grands mouvements religieux. Mais il y en a un autre avec lequel nous devons compter également au XVIe siècle et qui se développe, je vais dire, presque en même temps. Vous avez entre 1510 et 1540 globalement une fermentation religieuse extrêmement importante dans laquelle se génèrent beaucoup de mouvements qui vont connaître, je vais dire, un futur prometteur. Mais vous en avez un autre, merci, un autre qui, lui, va être extrêmement important pour le XVIe siècle, mais qui va être littéralement balayé de la carte par la répression religieuse. Alors, ce mouvement, c'est l'anabaptisme. Alors, l'anabaptisme, comme son nom l'indique, c'est abaptisme, donc ça veut dire le refus du baptême, et c'est surtout ici, évidemment, le refus du baptême des enfants. Donc le pierre d'angle, la pierre d'angle de leur croyance, c'est le refus de baptiser les enfants à la naissance, sous l'idée, bien entendu, que d'abord Jésus n'a pas été baptisé à la naissance, il a été baptisé adulte. Et d'autre part, pour eux, il faut que pour accepter le baptême et comprendre en conscience, disent-ils, ce que signifie ce baptême et cette alliance que vous faites avec la divinité, vous devez être un homme adulte et conscient, enfin, ou une femme aussi, adulte et conscient. Et donc, ce mouvement va, parmi d'autres, je vais dire, d'autres refus idéologiques, principalement se concentrer donc sur le refus du baptême des enfants, et va se constituer en communauté fermée, de petits groupes dans lesquels vont aussi se pratiquer, parce qu'ils voulaient en fait revenir à la Bible d'origine, je vais dire quasiment à l'Ancien Testament, pas au Nouveau, mais à l'Ancien Testament, de vivre, je dirais, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Et donc, vont se constituer en petite communauté où ils vont mettre fin à tout ce qui est la possession personnelle de biens. Donc, ils vont vivre vraiment dans une communauté, donc vraiment mettre tout en commun, donc leurs biens, vivre avec ou sans argent, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, il y a un refus du matérialisme, mais ils vont aller à ce qui peut être encore peut-être acceptable, mais ce qui ne va pas l'être du tout non plus pour les gens de l'époque, c'est que ils vont renoncer également à tout ce qui est le mariage et vont pratiquer la polygamie. Donc les femmes sont également mises en commun, je veux dire, dans ces communautés. Donc là, vous touchez, bien entendu, à du dogme, à des questions religieuses, mais vous touchez aussi à la société en tant que telle, puisque vous mettez à mal une institution qui pourrait être très importante, qui peut l'être pour nous également, qui est celle du mariage. Donc ces communautés, ces mouvements vont se répandre, je vais dire, assez rapidement. Et on voit que c'est toujours les mêmes zones géographiques. Donc ici, il y a toute une partie qui va se trouver dans le sud de l'Allemagne, au moment même où vous avez Luther qui est un peu plus au nord. Donc toutes ces idées se génèrent là. Donc vous avez un groupe en Allemagne du Sud. Vous en avez également en Suisse. Bon, vous voyez évidemment la proximité géographique, hein, tout ceci s'explique. Puis vous remontez vers le nord, vers l'Allemagne centrale, et vous débordez par la Suisse, ce qu'on appelle les Melchiorites, qui est le groupe vraiment qui va s'implanter dans nos régions aux alentours des années 1530. Et donc on va retrouver également dans nos régions une des importantes communautés anabaptistes, d'abord dans le nord, dans les Pays-Bas du Nord, donc l'actuel Pays-Bas. Vous allez avoir des sièges de villes, enfin, ça va être assez mouvementé, et puis ensuite un débordement jusque, je vais dire, grosso modo, la région de Bruxelles, jusqu'au nord du Hainaut, grosso modo, une partie des Flandres et au nord du Hainaut. Donc vous allez trouver ces communautés relativement importantes. On parlera chiffres tout à l'heure, vous expliquer un petit peu comment on peut avoir une idée chiffrée aussi par rapport à ces communautés. Vous imaginez bien que un empereur, vous avez ici Charles Quint, bien entendu, qui est représenté, c'est une vignette, je vais dire, de propagande religieuse, donc vous avez Charles Quint ici, avec tous ses attributs impériaux, la boula, le bâton de commandement qui est ici à ses pieds, mais également, je pense qu'il y a son épée quelque part, mais je ne la vois pas, il doit la... Au-dessus. Oui, elle est au-dessus, donc Dieu qui lui donne l'ange, enfin, qui lui donne son épée. Et ce qu'il dit, en fait, bon, c'est je me présente comme le garant et le défendeur de la religion catholique. Chrétienne, dira-t-il au départ, et puis très rapidement, catholique, bien entendu, va-t-il dire. Donc, vous imaginez bien que l'empereur Charles Quint, qui hérite donc en 1517 de nos régions, puis qui devient empereur en 1520, qui se présente comme le défendeur de la religion et du pape, ne peut pas accepter ces mouvances, ces mouvements d'idées, ces hérésies, je vais les appeler comme ça par facilité, puisque c'est aussi de cette manière-là qu'il les appelait, bien entendu. Donc, ne peut pas accepter cela. Et donc, il va, par souci de vouloir maintenir l'unité religieuse à l'intérieur de ses territoires, il se rend bien compte, vu l'exemple de ce qui se passe déjà en Espagne depuis plus de 30 ans, il a la connaissance de ce qui se passe depuis ses grands-parents, puis son père, et puis bien entendu lui-même, que cette fermentation religieuse n'est pas bonne pour l'unité de ces territoires, et pose question. Donc, petite digression, en Espagne, bien entendu, vous avez le problème principal au départ, qui est le problème d'abord de l'islam, hein, puisque vous avez cette Reconquista qui se termine dans les années 1485, et qui termine de chasser les derniers arabes du sud de la péninsule hispanique. Et puis, vous avez le problème des judéo-chrétiens. Donc, vous avez le problème des juifs, des communautés juives qui se sont également installées depuis le Moyen-Âge, qui ont prospéré et qui, évidemment, pratiquent le judaïsme, qui va être de plus en plus repoussé et mal vu. Donc, en Espagne, le problème n'est pas le protestantisme, le problème, c'est l'islam et le judaïsme. La Suprema, donc l'Inquisition espagnole, a été créée pour lutter contre ces deux mouvements dans le but de recréer une unité religieuse. Et c'est sur cette base-là que Charles Quint va aborder, le problème chez nous des protestantismes, puisque nous n'avons, à que très rares exceptions, quelques communautés juives, mais nous n'avons pas du tout de communautés arabes, bien entendu, à ce moment-là. Donc c'est sur base de cet exemple-là qu'il va poser toute sa réflexion, et il va la poser en deux volets différents. Donc d'abord, d'un côté, un volet, de renforcement de la religion catholique dans nos régions. Ça, c'est un aspect, oserais-je dire, un peu plus positif, ou en tout cas moins négatif. Et puis le second volet, bien entendu, c'est le volet répressif, qui va se solder par la création donc, d'un système répressif qu'on appelle l'Inquisition, parce qu'il est très très proche de ces inquisitions dont je vous ai parlé en introduction. Alors, dans ce premier volet que je vais aborder, que de manière très, très elliptique, renforcer la religion catholique, ça revient concrètement, en fait, à veiller à ce que les populations soient bien informées de la doctrine, soient bien informées de ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, évidemment, en matière de morale et de religion. Donc tout cela va passer d'abord par une restructuration complète de la structure ecclésiastique. Alors la structure ecclésiastique ancienne des Pays-Bas, elle est héritée, quasiment de Charlemagne et de Louis le Pieux, donc elle a presque 800 ans. Elle n'a pas bougé depuis, elle n'avait pas de nécessité de la changer. Mais de facto, quand vous constatez sur cette carte qui vous montre en fait les différents évêchés avant 1559, qui est la date de restructuration de ces évêchés, ces évêchés étaient supranationaux. Pourquoi ? Parce qu'ils datent de l'époque de Charlemagne, au moment où, nos territoires étaient englobés dans un empire beaucoup plus vaste, et où là, évidemment, on avait fait le découpage suivant cet empire-là. Le temps ayant passé, vous avez toute une série d'évêchés dont une partie, dépendait de la France, dans la frontière sud, d'autres qui dépendaient de l'Allemagne, d'autres qui dépendaient tout à fait à l'extérieur, de l'Allemagne, et d'autres, enfin, cette fameuse principauté de Liège, qui était un petit peu au milieu, imbriquée dans tout ça. Donc la difficulté, évidemment, était que, prenons par exemple l'évêque ici d'Arras, l'évêque d'Arras, il a à la fois, sous son autorité spirituelle, des habitants des Pays-Bas, donc sous l'autorité de Charles Quint, et en même temps des habitants de France sous l'autorité de François Ier. Donc, ce qui rend extrêmement difficile, évidemment, l'éducation des masses, et en tout cas d'avoir une politique globale qui soit cohérente. Donc que se passe-t-il ? Eh bien simplement, Charles Quint va décider, déjà dans les années 1540, mais ça va se concrétiser sous le règne de son fils, au tout début du règne de Philippe II, donc en 1559, de restructurer complètement les évêchés, donc d'une part de les faire coïncider avec les frontières de son État, et deuxièmement, de multiplier les évêchés. Parce que trois évêchés pour un territoire aussi énorme que les anciens Pays-Bas, avec trois évêques, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous ne pouvez pas surveiller une population, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe, vous ne pouvez pas, structurer une éducation religieuse concrète pour les gens. Et donc, il va refaire donc cette réforme des diocèses. Et vous avez sur la carte ici le résultat, après 1570, de cette restructuration. Je ne les ai pas comptés, je crois qu'ils sont une douzaine d'évêchés. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Mais donc, vous avez évidemment ici visuellement une différence qui saute aux yeux. Une multiplication du nombre des évêques, Pour vous citer un exemple, c'est l'époque où on crée un évêché à Anvers, par exemple. L'évêque d'Anvers, donc, qui existe toujours aujourd'hui, eh bien, son évêché date de cette époque-là. Et donc, vous avez, si vous voulez, une mise sous tutelle de l'ensemble de la population par ces nouveaux évêchés, qui développent d'un côté des tribunaux épiscopaux, donc qui vont juger des affaires religieuses, des affaires de moralité également, ce qu'on appelle les officialités. Donc, au lieu d'en avoir 3, vous en avez 12. Et vous avez d'autre part toute une série d'écoles qui vont être créées pour que les enfants soient éduqués dans les principes catholiques. Donc ça, c'est, je vais dire, la plus grande, en tout cas, des mesures que l'empereur Charles Quint va mettre sur pied et qui sera donc suivie, je vais dire, par son fils et puis petit-fils, etc. Donc dans cette optique d'éducation des masses pour tenter donc de contrer les idées dites hérétiques. Bon, tout ça va se compléter aussi par des visites régulières des évêques et des prêtres à l'égard de leur population, de tout un système de surveillance, pas répressif ici, mais vraiment un système de surveillance fondé aussi malheureusement sur la délation, de savoir si les paroissiens vont bien à la messe. À l'époque, il fallait pas aller tous les dimanches, c'était pas du tout une obligation, il fallait aller 4 fois par an et il fallait aller aux fêtes principales. Mais donc, si vous n'y alliez pas, c'était douteux, donc on allait pouvoir enquêter sur vous. Donc, il y a vraiment, c'était quelque chose de très neuf à l'époque, ça n'existait pas auparavant. Donc, tout un système de surveiller si, effectivement, les paroissiens se rendent bien aux fêtes principales, ils vont à l'église, ils ont, je vais dire, un respect par rapport aux images saintes, etc. Donc tout ce qui définit le dogme catholique par rapport aux hérésies. Alors nous allons passer maintenant au deuxième volet, évidemment, qui est le volet purement répressif. Donc ici je vous ai mis quelques saucisses, comme dira Alain, il y a trop sur mon sur ma diapo ici, mais enfin bon. Alors en fait, comment est-ce que ça va se faire grossièrement en 2 étapes? Donc la première idée de Charles Quint, comme je vous l'avais dit, c'était de repartir finalement de l'expérience espagnole, même si elle ne portait pas sur les protestantismes, et donc de créer ex nihilo un tribunal particulier, qu'il n'aurait pas appelé suprema, puisque suprema c'est en espagnol, il aurait pu l'appeler comme il voulait, donc il a pris le mot d'inquisition parce que c'était le plus parlant et le plus simple finalement. Donc vers 1522, il a effectivement cette idée de se dire, bon, c'est très bien de penser à réorganiser, de penser à motiver les évêques à faire ce premier volet qui est non répressif, mais il faut coupler à ça une répression pour casser d'office ces mouvements religieux qui veulent tenter de pénétrer dans les Pays-Bas. Alors, que va-t-il faire? Donc, il veut s'inspirer de la suprema espagnole. Il se rend extrêmement vite compte que la structure judiciaire des Pays-Bas, je vais y revenir avec un autre donc un autre dessin, en quelques instants, on comprendrait mieux. C'est pas possible. C'est pas possible parce que l'histoire judiciaire et l'histoire administrative des Pays-Bas, surtout depuis l'époque bourguignonne, ne le permet pas. Tout ça a été cadenassé. La structure judiciaire est telle que c'est pas possible de créer ex nihilo ce tribunal. Et donc, il va devoir l'insérer dans la structure. Alors, il va faire une première tentative en 1522 à 1530, grosso modo. Il va, faire un système un peu mixte, s'inspirer alors de l'inquisition médiévale, en disant, je vais nommer des inquisiteurs. Mais au lieu que ce soit le pape, comme dans l'inquisition médiévale, qui avait ce pouvoir, et qui l'a toujours d'ailleurs à cette époque-là, de nommer des inquisiteurs spécifiques pour des questions d'hérésie, c'est Charles Quint lui-même qui les nomme. Alors pourquoi est-ce qu'il a ce pouvoir-là, alors qu'en théorie il ne pourrait pas l'avoir? Tout simplement parce que le pape de l'époque, c'est Adrien VI, et qu'Adrien VI, c'est son précepteur. Donc il y a ici une collusion, je vais dire, politico-religieuse entre la papauté et Charles Quint. Et donc, au départ, Charles Quint ne s'inscrit pas dans une lutte de pouvoir contre la papauté, mais dans un système de collaboration. Et donc il va nommer, avec, je vais dire, l'assentiment du pape, mais en fait le pape avait juste le droit de rien dire du tout, sauf oui. Il va donc nommer plusieurs inquisiteurs. D'abord un inquisiteur général qui est François Van der Hulst, qui en fait n'est pas un ecclésiastique. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'ici l'inquisiteur qui est nommé n'est pas un ecclésiastique, mais c'est un juriste. Il est conseiller au Conseil de Brabant, qui est une structure administrative, je vais dire, de haut niveau, et qui lui a juste donné, je vais dire, une expérience judiciaire. Il ne lui a pas donné une expérience théologique ou une expérience religieuse, quelle qu'elle soit. Donc il va nommer ce conseiller de Brabant avec, parce que il est bien conscient quand même qu'on est dans un domaine religieux, que Van der Rulst n'étant pas théologien, il va avoir peut-être quelques difficultés. Donc il lui met avec lui deux théologiens, Van den Wengaard et un théologien, donc Jean de Valenciennes, un francophone et un irlandophone. Oui, parce qu'à l'époque, on fait déjà de la parité. La parité est très ancienne dans nos régions, et déjà à l'époque, on avait un souci d'équilibrage, dans le sens où tout simplement, pragmatiquement, la moitié du territoire parle en français, l'autre moitié parle évidemment de langue tiwaze, comme on dit à l'époque, donc des langues d'origine néerlandaise. Et donc, il faut effectivement... je vais dire qu'il y ait des institutions qui soient bilingues, et c'est le cas à l'époque. Alors, le premier secteur qui est concerné, c'est la Hollande. Alors, pourquoi la Hollande? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en 1520, c'est par la Hollande que les premiers écrits de Luther, que les premiers écrits anabaptistes également, pénètrent dans les Pays-Bas. Pourquoi? Parce que la Hollande est une région de commerce, et que, tout simplement, l'Allemagne commerce via la Hollande, plus facilement que via les régions francophones. Et donc, c'est par la Hollande que ces inquisiteurs vont commencer à enquêter. Alors, ils commencent à enquêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans les villes, on contacte le curé du coin, on lui demande ce qui se passe, s'il a repéré, effectivement, des gens qui auraient un comportement qui ne serait pas conforme à la religion catholique. Mais d'autre part aussi, on sait très bien que c'est par les monastères notamment que les écrits des protestants pénètrent également, pour une raison très simple, c'est que la majorité de la population ne sait ni lire ni écrire, et que donc l'élite intellectuelle à l'époque, ce sont les ecclésiastiques, ce sont les monastères. Et donc effectivement, les monastères, et notamment les monastères des frères mineurs, qui sont en relation très proche avec les frères mineurs allemands, ces frères mineurs apparaissent contaminés. En tout cas, c'est par eux que les écrits de Luther et des anabaptistes commencent à circuler. Donc, des enquêtes s'en suivent, mais très rapidement, la population s'insurge, parce que manifestement, ces inquisiteurs ont un comportement, je vais dire, un peu dictatorial. Donc ils arrivent dans une ville, il faut leur servir tout, le banquet, les payer, il faut leur dérouler le tapis rouge, etc. Et donc les magistrats des villes également n'apprécient pas tellement cette ingérence dans leur gouvernement, alors qu'en général ils sont indépendants pour tout cela. Donc il y a beaucoup de protestations qui remontent vers Bruxelles et vers l'empereur, si bien que l'empereur se dit qu'effectivement c'est pas une très bonne idée, que ce conseiller, ces deux théologiens ne sont peut-être pas les personnes qu'il fallait choisir, et il les remplace en 1524, donc après un an seulement, par trois autres inquisiteurs, qui ici sont effectivement des théologiens, sont des ecclésiastiques, donc Olivier Budens, Nicolas Houzeau et Nicolas Coppa. Alors ces trois inquisiteurs donc vont reprendre, si vous voulez, le travail de leurs prédécesseurs, en ayant, je vais dire, au contraire, des trois premiers, une structuration géographique. Donc au lieu d'être compétent sur l'ensemble des Pays-Bas, on va les structurer géographiquement, compte tenu des régions qui apparaissent de plus en plus, je vais dire, dans lesquelles des communautés protestantes et anabaptistes se développent, donc principalement la Hollande, mais aussi le Brabant, le Hainaut et la Flandre, qui sont les régions qui vont être, je vais dire, les plus atteintes, si on peut reprendre un terme comme celui-là, par ces nouvelles idées. Alors, on va faire un aller-retour, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Ici, voilà. Alors, quelle est cette structure judiciaire qui empêche la création de ce tribunal exceptionnel, tel que donc la Suprema espagnole? Alors, on va commencer par en bas, ce n'est pas coutume. Donc, quand vous avez commis un crime quelconque à l'époque, suivant, je vais dire, la gravité du crime, vous étiez jugé par des tribunaux différents. Alors, vous avez au niveau local ce qu'on appelle les bans échevinaux ou les cours urbaines ou féodales. Donc, ça veut dire concrètement que Dans les villes, vous avez des échevins, Bromès des échevins, comme aujourd'hui, je vais dire, et qu'il y a attaché à cette structure-là un tribunal. Alors, ce tribunal a possibilité ou non, suivant les prérogatives anciennes qui lui ont été accordées, de juger les crimes de sang ou de juger juste les crimes non de sang, donc tout le reste, c'est-à-dire les vols, tout ce que vous voulez, pouvez imaginer, que je vais dire, comme criminalité légère, qui peut être jugée. C'est bon, échevinaux, ces cours urbaines, si ce sont des cours attachés à une ville principale, ou des cours féodales, si c'est attaché à des seigneuries, sous le modèle médiéval, avec un seigneur, quand elles ne peuvent traiter d'un cas où, si le justiciable, veut faire appel, doit s'en référer à la structure supérieure, qu'on appelle en fait les conseils provinciaux. Alors, par province, à l'époque, il y en a 17, vous avez un conseil provincial qui porte des noms différents, ici je les ai tous nommés. Et donc, ces conseils ou ces cours, comme la Cour du Hainaut, par exemple, qui a un nom un petit peu à part, tous ces conseils, eux, ont d'office la juridiction pour les crimes de sang et ont, bien entendu, l'appel de toutes les cours inférieures. Au-dessus, si vous souhaitez soit faire appel encore de cette cour-là, c'est toujours possible, soit si vous avez des cas, beaucoup plus graves, et je pense, par exemple, à ce qui s'est passé avec le comte d'Egmont, puisqu'on en a touché un tout petit mot tout à l'heure, ou à des criminalités qui sont liées à des seigneurs, donc à des gens qui ont des rangs particuliers. Ça ne va pas se traiter à ce niveau-là, ça va se traiter beaucoup plus haut. Donc ça va se traiter soit au Grand Conseil de Malines, qui est, si vous voulez, le grand tribunal fourre-tout, oserais-je dire, créé donc, par le Charles le Téméraire pour rassembler toute la structure judiciaire des Pays-Bas, ou directement auprès du gouverneur des Pays-Bas ou de l'empereur lui-même au sein de son conseil privé. Donc ça, c'est la structure telle qu'elle a été, conçue et fixée à partir de Charles le Téméraire. Et donc, évidemment, vous voulez venir ajouter dans cette structure un tribunal religieux. D'abord, vous ne savez pas très bien où le placer. Parce que normalement, la question religieuse ne se traite pas du tout dans ces tribunaux-là, mais se traite dans les tribunaux ecclésiastiques, donc ces fameuses officialités attachées aux évêques dont je vous ai touché un petit mot tout à l'heure. Donc déjà, au niveau de la matière, vous ne savez pas où le mettre. Et puis en plus, au niveau de la structure, on vous rétorquera, mais pourquoi est-ce que vous voulez créer encore un tribunal? Il y a le Grand Conseil de Malines, qui est l'institution supérieure au niveau judiciaire. Pourquoi vous n'attribuez pas cette compétence alors dans la structure en tant que telle? Alors, le problème de Charles Quint, c'est que, en fait, ce ne serait pas effectivement un problème. Il suffit de faire un édit et de donner cette compétence au Grand Conseil de Malines ou que sais-je, de placer la compétence religieuse à l'intérieur de ces tribunaux. C'est que, comme les mouvements protestants, ces hérésies, ces anabaptistes, il y en a de plus en plus, il y en a partout, partout, partout. C'est comme une peste, disent-ils à l'époque. Dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, il y en a des millions, des milliers. Il se rend bien compte très rapidement qu'on ne peut pas donner cette compétence au Grand Conseil de Malines, qui, lui, siège à Malines, avec 20 juristes. Et donc, c'est irréaliste. Donc, sa première idée, c'est évidemment de se dire, il faut que je me rapproche de la population, comme il l'a fait, c'est dans le même ordre d'idée que cette réorganisation des évêchés. Il doit se rapprocher de la population, et donc, pour lui, le niveau qu'il juge, a priori, le plus intéressant pour cela, c'est le niveau intermédiaire. Donc, c'est le niveau des conseils provinciaux. Et donc, son idée, c'est effectivement, dès les années 1530-1535, de donner la compétence pour hérésie, donc pour crime religieux, c'est comme ça qu'on va l'appeler, crime religieux, à l'ensemble des conseils provinciaux. Alors, conseils provinciaux qui, vous imaginez, n'ont ni le personnel, ni la compétence, ni les théologiens pour juger de tels crimes, qui vont très rapidement signaler à l'empereur que ça ne fonctionne pas, qu'effectivement, ils veulent bien qu'on amène devant eux des hérétiques, mais que, quelque part, ils ne savent pas très bien comment il faut mener le procès, quelle procédure faut-il utiliser, est-ce qu'il faut céder théologiens, est-ce qu'il faut demander l'aide de l'officialité ou pas. Donc vous avez toute une série, évidemment, de problèmes techniques, je vais dire, qui vont se poser. Si bien que, très rapidement également, donc en 1540, l'empereur va dire, écoutez, je comprends bien le problème, Vous êtes débordés, parce qu'en fait le problème aussi c'est ça, c'est qu'on ne parle pas ici de 3 cas par conseil provincial, mais on en parle de centaines. Et donc les gens, bon, les juristes qui sont là ne peuvent pas suivre non plus. Il va exceptionnellement accorder aux cours urbaines, féodales et aux bans échevinaux la possibilité de juger eux aussi ces crimes d'hérésie. Ce qui est, je vais dire, extrêmement novateur pour l'époque. On n'a jamais vu une compétence de cette importance descendre, je vais dire, la structure judiciaire de manière hiérarchique de cette manière. Alors, on va revenir un petit peu en arrière ici. Et donc, vous avez cette seconde structure inquisitoriale qui va être le fruit de cette réflexion, je vais dire pragmatique, simplement de dire, d'un côté, nous allons laisser des inquisiteurs. Donc, ces fameux 3 inquisiteurs seront remplacés par la suite, qui, eux, sont des ecclésiastiques, qui parcourent le pays, qui se rendent également au procès si nécessaire, donc pour soutenir tant les bans échevinaux que les conseils provinciaux, lors des procédures, pour bien déterminer si la personne est effectivement hérétique ou si elle ne l'est pas. Elle serait éventuellement passible d'autres crimes que celui-là. Et donc, ils vont visiter régulièrement. À côté de cela, on va créer toute une procédure, bien entendu, qui n'existe pas. On n'a pas, je vais dire, à ce moment-là, au niveau du droit criminel, qui est encore en gestation, ni au niveau du fonctionnement judiciaire, de cas qui approchent ces cas d'hérésie. Au départ, les énonciations anonymes pouvaient servir de base. Donc, dans les années 1520, on pouvait dire « Oh, mon voisin, il a une sale tête, je vais m'en débarrasser, je vais envoyer une lettre à l'inquisiteur, je lui dis qu'il a l'air de lire des bouquins de Luther, enfin, il doit des drôles de trucs, moi, je comprends rien, donc on envoie la lettre, et puis l'inquisiteur débarque, et puis il y a une enquête, etc. » Donc ça, à partir de 1546, ce ne sera pas possible, ce sera plus possible. C'est-à-dire que la dénonciation va s'ajouter au dossier, mais ne pourra plus constituer à elle seule la seule preuve de condamnation. Donc vous avez ici, je vais dire, un progrès, malgré tout, dans cette réflexion. Mais on va passer vraiment à une procédure d'interrogatoire. En fait, on revient, si vous voulez, à ce que voulait faire l'Inquisition médiévale par le thème d'inquisitio, qui était enquêter, d'une part, mais d'autre part, interroger les gens. Donc faire venir les gens devant le tribunal, les interroger à charge et à décharge, ce qui est aussi extrêmement novateur pour l'époque. Donc vous voyez que paradoxalement, quelque chose qui peut être très négatif et très répressif va faire ici avancer, je veux dire, la justice criminelle dans son ensemble. Comment on peut le faire à charge et à décharge? Cela inclut tout simplement la présence d'un avocat. Ce que les hérétiques de la première période n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir. Donc vous pouvez choisir votre avocat. Et si vous ne pouvez pas le choisir, vous n'avez pas les moyens de le payer, on vous fournira un avocat commis d'office, qui en général sont des avocats, je vais dire, malheureusement, de seconde zone, hein, sont des juristes en droit qu'on va chercher tout simplement dans les cours. Alors, les inquisiteurs, eux aussi, ont un pouvoir par rapport à celui-là, donc ils peuvent arrêter les gens, les mettre en prison, bien entendu, mais aussi, ils ne peuvent pas agir uniquement seuls, ils doivent toujours en référer à la justice criminel de l'empereur. Donc vous avez ici une suggestion, comme dans l'Inquisition espagnole, une suggestion des inquisiteurs au pouvoir royal. Donc il n'est pas question de créer donc une indépendance du pouvoir religieux par rapport au pouvoir royal. Les deux sont intimement imbriqués. Alors, quand la personne, évidemment, est jugée hérétique, et ce jugement ne peut se faire que par un théologien, dûment reconnu comme tel, à partir du moment où il est reconnu comme hérétique, il quitte, si vous voulez, le giron de l'Église d'un côté, mais aussi la compétence du tribunal ecclésiastique. C'est comme s'il était, si vous voulez, dégradé de sa fonction, je dirais, religieuse, et il est rendu au bras séculier. Donc ça veut dire l'exécution de la sentence, le prononcé de la sentence, ce ne sont pas les tribunaux ecclésiastiques qui les prononcent, ce sont les tribunaux civils. Donc criminel ici, en fait, plutôt dans ce cas-ci. Donc sur les tribunaux de l'empereur. Donc vous avez, si vous voulez, la structure ecclésiastique ne sert qu'à qualifier le délit, qu'à qualifier la personne en disant effectivement il est hérétique ou il ne l'est pas. Donc s'il ne l'est pas, à ce moment-là, il est relâché. il n'a pas commis de crime d'hérésie, donc il est relâché, ce qui arrivera d'ailleurs à un certain nombre de personnes. S'il est reconnu hérétique, à ce moment-là, l'Église le définit comme tel et le donne à la justice séculaire en disant « Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous appliquez la pénalité que vous avez prescrite. Nous, on s'en lave les mains, on ne s'en occupe plus. » Alors, les conseils de justice, donc ça c'est ça. La surveillance également va être très intense à l'égard des imprimeurs, des libraires, de tous ceux qui approchent le livre. Alors vous allez avoir des édits très particuliers sur les imprimeries, sur les libraires, sur les gens qui vendent les livres, sur les colporteurs, sur tous ces métiers, je vais dire, du livre. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, le livre est le principal vecteur. Et donc, on assistera effectivement dans nos régions à de grands autodafés de livres et d'ouvrages pour bien montrer que cette littérature ne peut pas être lue, ne peut même pas être détenue, même si vous ne savez pas lire. Et que vous avez sur vous un opuscule de Luther, vous êtes considéré comme hérétique. Même si vous dites, mais je ne sais pas lire, je ne sais pas ce qu'on m'a donné, je ne sais pas ce que j'ai en main, ça n'a aucune importance, vous l'avez, ça suffit. Donc ça suffira à vous faire reconnaître comme hérétique. Et donc en fait, ces structures donc, qui se font définitivement en 1540 et puis sera prolongée par des édits royaux, va se perpétuer en fait jusqu'à la guerre des Pays-Bas, donc jusqu'à 1567-1570, au moment effectivement où vous aurez cette guerre civile qui va se déclencher et qui va évidemment mettre à mal tout le système. Donc vous avez ici, je ne vais pas m'attarder sur cette longue liste d'édits. Sachez qu'il y a une quarantaine d'édits en 20 ans à peu près. Donc pour vous dire l'urgence d'un côté et l'importance de ce problème, il y a une quarantaine d'édits en 20 ans qui seront publiés par Charles Quint, qui traite soit des questions d'ordre général sur l'inquisition et sur les protestantismes, soit sur des questions plus précises touchant à l'anabaptisme, touchant au judaïsme également, et qui auront pour but, et c'est ça qui est vraiment très important, je vous ai parlé au tout début en introduction de ce qu'était un hérétique, de ce qu'était l'hérésie. Alors évidemment, il y a un problème dans lequel je ne vous ai pas encore parlé, c'est que pour Charles Quint, évidemment, l'hérésie est d'abord un problème purement religieux. Donc, concrètement, normalement, il ne doit pas s'en occuper, puisqu'il est le bras de défenseur de l'Église, c'est à l'Église de s'en occuper. Mais au niveau idéologique, il a un problème. C'est que ces populations sont en train de changer de religion, que lui veut se battre pour l'unicité de religion, et que donc il doit trouver un moyen aussi pour, je vais dire, s'approprier cette nouvelle criminalité. On va dire ça comme ça. Alors, si on reprend le droit canon, ben évidemment, il ne sait pas. Il est bloqué. Il ne sait pas, puisque le magistère de l'Église et la notion, je vais dire, d'écriture révélée, lui, il a pas de pouvoir par rapport à ça. Et donc, dans ses ordonnances, il va utiliser une astuce, que je trouve personnellement très intelligente, malheureusement pour les populations de l'époque, mais il va transformer la notion d'hérésie en disant « Mais puisque moi, l'empereur, je suis le garant de la religion catholique, puisque je suis le défenseur de la papauté, et puisque je suis un souverain sacré, hein, n'oubliez pas qu'à l'époque, les souverains étaient sacrés, donc ils incarnaient en eux, je vais dire, une royauté sacrée, dans le sens antique du terme. Ils étaient l'incarnation aussi de ce lien indéfectible entre la religion et l'État. Puisque toute personne qui renie cette religion catholique, qui s'intéresse à ces idées protestantes, elle rejette l'Église. Or, moi, je suis l'incarnation aussi de cette Église. Donc, s'il touche à l'Église, il me touche à moi également, en tant que, je veux dire, corps de l'État. C'est une notion qu'on a développée beaucoup à l'époque. Le roi représente physiquement aussi l'État. Et donc, par ce biais, il va dire, mais tout simplement, puisqu'il y a une atteinte à la religion, il y a une atteinte à mon corps virtuel, oserais-je dire, eh bien donc, il y a une offense à mon égard, et donc, l'hérétique est aussi un criminel de lèse-majesté. Et donc, il va introduire dans la notion religieuse de l'hérésie une dimension, je vais dire, politique, une dimension non religieuse qui est celle de l'atteinte au corps du roi, qui se traduit donc par le principe, je fatigue un petit peu, excusez-moi, donc par le principe de crime de lèse-majesté, qu'il va qualifier de divine d'un côté, puisque ça touche à la religion, et d'humaine, puisque lui est une incarnation humaine. Et donc ça, c'est, je vais dire, le moyen idéologique par lequel il va pouvoir s'approprier le jugement des crimes d'hérésie. Alors, je vous dis tout de suite que c'est un système d'abord qu'il a créé, et c'est un système qui sera unique en soi. Vous ne retrouvez ça nulle part, ni dans l'Inquisition espagnole, ni dans l'Inquisition italienne, ni dans toutes les... même pas en France, qui pourtant est, je vais dire, l'inventeur de cette notion du corps du roi comme représentation de l'État, qui est une notion qui date du XIVe, XVe siècle, hein, petite parenthèse, donc qui n'est pas quelque chose de neuf en soi, mais ce qui est neuf, c'est de l'utiliser à cette fin-là. Et donc vous allez voir un glissement dans les édits très clairs au début où il parle dans les années 1520 de l'hérésie, des hérésies protestantes, des hérétiques, etc., de condamner ceux qui sont hérétiques. Et vous allez voir le glissement à partir de 1535-1540 vers la notion donc de personnes qui ont commis un crime de lèse-majesté divine et humaine. Et tout le monde comprend évidemment à l'époque ce que ça signifie. Crime de lèse-majesté, c'est le crime le plus grave qui soit. C'est un crime de trahison. Ça équivaut à un crime de trahison. Et donc forcément, le système pénal, les pénalités qui vont être appliquées ne peuvent être que les plus graves. Et donc la plus grave à l'époque, bien entendu, c'est la mort. Donc tout cela, si vous voyez, suit une certaine logique, je vais dire macabre ici, mais une logique, et tout se tient. Vous avez un corpus de droit criminel ici qui tient vraiment la route, qui est solidement planté. Alors, vous avez évidemment d'autres, ici j'en ai cité quelques-uns, je vais dire, de définitions qui sont utilisées. Donc, suivant que vous soyez hérétique, bon, ben, vous avez donc commis ce crime de lèse-majesté humaine, vous êtes hérétique, vous professez votre hérésie, bon, vous êtes hérétique. Par contre, si vous aidez un hérétique sans être hérétique vous-même, exemple, on frappe à votre porte. Vous accueillez chez vous le soir parce qu'il pleut, fait mauvais, il a faim. Enfin bon, vous accueillez quelqu'un chez vous. Vous ne savez pas qu'il est hérétique, il ne vous parle pas forcément de religion. Vous le nourrissez, le lendemain, vous lui dites au revoir, vous ne le revoyez pas. Et puis, trois jours après, vous voyez l'inquisiteur qui frappe à votre porte. Dites, vous avez accueilli un tel, vous savez, ce n'est pas quelqu'un de bien, hein, il ne fallait pas l'accueillir. Bon, maintenant, vous venez avec moi parce qu'on va vous interroger. Et donc, en fait, vous avez nourri, vous avez aidé, même en ne sachant pas inconsciemment quelqu'un qui a sur lequel pèse un soupçon d'hérésie ou qui est un hérétique avéré, eh bien, vous êtes coupable et vous serez condamné pour cela comme fauteur des hérétiques. C'est aussi une notion qui apparaît dans les années 1530-1540. Vous ne serez pas condamné à la mort. Il y a un autre, je vais dire, c'est une autre gravité, je vais dire, de peine qui va vous être appliquée. Donc, en général, c'est la confiscation des biens qui est requise à ce moment-là. Et le but, évidemment, c'est d'empêcher que toutes ces hérétiques, que tous ces gens qui sont sur les chemins, à une époque où les gens voyagent, puisqu'on ne le croit, soient accueillis, soient soutenus, soient aidés. Donc c'est de casser, je vais dire, la coopération entre les gens, si vous voulez. C'est vraiment de casser toute cette sociabilité des gens entre eux et de ne laisser évidemment qu'un répit à ces hérétiques. Et donc, en fait, vous avez donc ces hérétiques qui sont considérés comme des criminels de droit civil. Ce ne sont plus du tout des gens qui ont commis un fait religieux, ils ont commis un fait civil, comme les vagabonds, les meurtriers et les incendiaires. Et donc, vous avez une assimilation complète vers la fin, donc vers 1550, de ces criminels entre eux. Donc vous avez un mélange, hein, c'est assez intéressant, je ne peux pas m'étendre indéfiniment là-dessus, mais c'est assez intéressant, je vais dire, de voir disons, l'évolution des mots en tant que tels. Vous avez un exemple ici d'Eddy, hein, donc ça se présente comme ça. En plus, c'est imprimé aussi, puisque l'empereur utilise aussi l'imprimerie pour reprendre évidemment ses édits, ses ordonnances à travers les populations. Donc, d'un côté, vous avez les écrits protestants qui circulent, de l'autre côté, vous avez toute cette littérature officielle qui circule également. Donc je vois que le temps tourne, je parle. Alors, le point focal, je vais dire, de ce conflit, parce qu'en fait c'est un vrai conflit, c'est une vraie guerre ici qui est en train de se dérouler et qui s'augmente dans le temps. Donc si on n'a que quelques communautés dans les années 1520, À partir des années 1540 et 1550 surtout, vous avez une multiplication extrêmement importante du nombre de communautés, principalement dans les régions calvinistes et anabaptistes. Le luthéranisme sera vite balayé par les calvinistes, surtout dans les régions francophones, et toutes les régions, ce qu'on appelle la Flandre maritime, qui sont évidemment fort en contact avec la France à l'époque. Et donc vous avez une pénétration du calvinisme qui est très importante. L'anabaptisme, lui, comme on l'a vu tout à l'heure, vient plutôt du nord. Et donc vous allez avoir, face à ce système répressif qui a été mis en route, une opposition qui va se montrer de plus en plus importante. Donc si au départ, les cours criminelles, les échevins, les conseils provinciaux sont assez d'accord avec l'idée de l'empereur de lutter contre ces mouvements religieux, ils vont très vite, eux, être confrontés à la réalité tangible de tous les jours. Donc ça veut dire d'arrêter les gens, ça veut dire de torturer les gens, parce que la torture fait partie aussi des procédures normales à l'époque, d'interroger des enfants, d'interroger des femmes, des familles entières, des communautés entières. Donc vous avez parfois, pour une personne soupçonnée, on interroge 100 personnes, pour vous donner une idée de la proportion. Je vais dire, sur le terrain, ces échevins et ces cours locales vont très vite se rendre compte de l'aspect un peu rouleau-compresseur de ce système répressif, avec tous les abus qui peuvent s'en suivre. D'autre part, un certain nombre d'échevins et de juristes aussi passent dans ces mouvements-là. Donc, vous en avez un certain nombre qui deviennent protestants, et qui donc ont un réel problème de conscience, de se dire, est-ce que je vais vraiment juger mes coreligionnaires? Est-ce que je dois me démarquer? Est-ce que je dois rester caché, sous couvert de ma fonction? Qu'est-ce que je dois faire? Donc vous avez, à partir donc, des années 1550 surtout, un grand questionnement qui s'élève, mais que l'empereur n'entend pas. Donc au niveau supérieur de l'État, lui, il est toujours dans sa doctrine, il continue à avancer. Il ne pose pas de réponse, puis 1555, donc Charles Quint renonce à la direction de nos régions, il se retire à Yuste, et il meurt en 1559, il laisse nos régions donc à Philippe II. Alors, on ne va pas s'apesantir sur l'image de Philippe II, ce serait l'objet un jour peut-être d'une autre conférence, mais il est clair que vous avez affaire ici à un homme qui a d'autres visions politiques, qui a un autre passé, qui, a une toute autre vision de l'État, et ça va mal se passer, comme vous le savez, le contact ne va pas se faire entre, non seulement les habitants, mais aussi la structure administrative de l'État, donc ça veut dire les grands nobles, ça veut dire les grands administrateurs, les grands fonctionnaires. D'autant que Philippe II, lui, surtout fonctionne avec beaucoup d'Espagnols, donc il veut insérer beaucoup d'Espagnols dans la structure administrative, ça ne se passe pas très bien. Les grands nobles d'ici sont assez jaloux de leurs prérogatives. Et donc vous allez avoir, à cela, si vous voulez, au problème religieux, va s'ajouter un problème de révolte nobiliaire, qui va faire que dans les années 1560 et surtout 1566, 1567, on va aboutir à une guerre civile. Alors, une guerre civile qui va, au niveau religieux, s'illustrer par ce qu'on appelle l'iconoclasme, donc c'est-à-dire un mouvement dont on n'explique toujours pas très bien aujourd'hui l'origine. On sait juste que c'est né du côté de Lille, dans la Flandre maritime. Est-ce que c'est vraiment un mouvement religieux ou un mouvement politique ou un mélange des deux? C'est toujours pas très clair non plus. Les gens de l'époque, d'ailleurs, pour eux, c'était déjà pas clair. Vous pensez à 500 ans de distance, ça n'est pas toujours beaucoup plus clair non plus. Et donc, ces bandes, de jeunes, de pillards, de désœuvrés d'un côté, mais aussi d'artisans qualifiés qui sont manifestement imprégnés de protestantisme, vont déferler sur les principales villes des Pays-Bas, donc en Flandre, en Hainaut, en Brabant, jusqu'au Nord-Brabant et jusqu'en Frise. Qu'est-ce qu'ils vont faire principalement? Ils vont se rendre dans les églises, ils vont casser les images religieuses, donc c'est-à-dire les représentations non seulement de Dieu, mais également de tous les saints, qui sont définis, en tout cas comme eux, comme étant païennes, mais en tout cas, Dieu ne peut pas être représenté de cette manière-là. Il n'y a pas d'intercession entre Dieu et les croyants. Et donc, les statues de saints, c'est de l'idolâtrie pour eux. Donc, c'est pour ça que quand vous allez encore visiter, on en trouve encore des traces aujourd'hui, des églises où les niches sont vides. Eh bien, c'est encore le relan, de ce qui s'est passé donc en 1566. Alors cet événement politico-religieux de révolte, on sait pas, je ne sais pas trop non plus comment le qualifier exactement, va susciter de la part de Philippe II, bien entendu, une riposte à deux niveaux. Donc une riposte religieuse d'un côté, avec, je vais dire, une répression d'une dureté sans précédent, une répression religieuse, mais aussi une réponse militaire, une riponse face à une révolte nobiliaire, face à une révolte politique. Et donc, vous avez l'arrivée du duc d'Albe et tous ces événements dramatiques qui se produisent à ce moment-là. Donc, vous avez ici une autre représentation de l'iconoclasme ici, donc qui vous montre effectivement les gens qui jettent à bas, qui brisent les vitraux, qui jettent à bas les images religieuses, qui va mener, bien entendu, à la scission à terme des régions nord et des régions sud, donc la constitution. Je vais pas dire de deux États, puisque nous restons dans le giron espagnol, mais que les Pays-Bas du Nord, eux, donc, prennent leur indépendance et instaurent, je vais dire, ce qui est aussi, avec beaucoup de difficultés, mais ce qui est aussi une chose unique pour l'époque, en tout cas, c'est la première fois qu'on crée un État qui accepte deux religions, avec des difficultés, avec, c'est pas parfait, hein, mais en tout cas, qui accepte la coexistence religieuse d'un culte protestant, le calvinisme en l'occurrence, et d'un culte catholique. Donc vous avez ici, ceci c'est l'époque des pamphlets, moi j'aime bien les montrer parce qu'ils sont assez, assez rigolos. C'est le genre d'image, je vais dire aussi, comme les gens ne savaient pas tous lire et écrire, la guerre des idées se livre aussi par l'image. Et donc vous avez ce genre de représentation, vous avez d'un côté, je vais dire, les ecclésiastiques, Philippe II qui pousse l'inquisition, et de l'autre côté vous avez les protestants, qui eux essayent d'avoir la coexistence religieuse et qui donc se battent ici un petit peu à méthode un papegaille. Vous en avez d'autres ici. Vous avez ici, c'est le vrai papegaille, donc on essaye de descendre l'inquisition qui est au-dessus et de la faire tomber. D'autres essayent de la défendre. Enfin, c'est, je vais dire, ce genre de choses qui sont, je dirais, qui circulent beaucoup. Alors, pour terminer l'exposé, on va passer aux chiffres un petit peu, parce que je sais que c'est aussi le genre de questions qu'on me pose. Oui, mais enfin, ça concerne combien de personnes? Est-ce qu'il y a beaucoup de morts? Comment est-ce que ça a fonctionné? Alors, j'ai fait des petits camemberts. Hein, on va essayer. Bon, je vous dis tout de suite que les statistiques sur le XVIe siècle, c'est pas évident. D'abord parce qu'on n'a plus un corpus complet, évidemment. Les archives du Hainaut ont brûlé, à mon grand désespoir. Donc, on a déjà perdu le Hainaut. Pour faire des chiffres, c'est très difficile donc, pour l'ensemble des Pays-Bas. Donc j'ai essayé, compte tenu de corpus à peu près complet, d'essayer de se représenter les choses. Donc ici, par exemple, sur la Flandre, on a la chance que les archives de Flandre, elles, des Flandres, hein, je ne dis pas uniquement de la Flandre aujourd'hui, mais des Flandres un peu plus larges, elles sont conservées. Donc on peut avoir une idée des proportions sur les pénalités ici. Alors j'ai structuré ça en deux parties aussi. La partie du règne de Charles Quint, donc, qui est vraiment la période de création et d'expansion du système, et puis les périodes suivantes, où vous verrez que ça va se diliter un petit peu. Alors, quand on fait une statistique par rapport aux personnes qui ont été arrêtées, qui ont été condamnées, ben, on arrive à ça. Donc, par rapport au niveau des condamnés, qu'est-ce qu'on constate beaucoup? C'est que la plupart des gens, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, il n'y a que 2,3% d'exécutés. Donc d'un côté, on a idéologiquement et politiquement une structure judiciaire extrêmement dure qui est conçue comme étant un rouleau compresseur pour tuer les gens, pour faire peur. Et puis dans la réalité judiciaire, je veux dire, vous avez une autre image malgré tout, où les exécutions restent rares, même si c'est quand même 2% des gens, je suis bien d'accord avec vous, toute proportion gardée. Mais d'un autre côté, vous avez ici les bannissements qui ont une proportion très importante. Au niveau des exécutions, excusez-moi, ici, vous avez c'est vrai que j'ai séparé les deux, vous avez les décapités qui sont 10%, excusez-moi, je vais en tête un autre camembert. Donc, on sait difficilement, si vous voulez, faire la... Il y a une importance sur laquelle je ne me suis pas ici étendue, disons, de la manière dont on vous tue à l'époque, suivant... Comme on disait la fable de La Fontaine, que vous soyez noble ou misérable, le traitement n'est pas le même, bien entendu. Que vous soyez une femme et un homme également, le traitement n'est pas le même non plus. Mais donc, ce que je veux dire ici, c'est que malgré tout, si vous mettez le total, vous verrez qu'au niveau des exécutions, les exécutions ne représentent moins de la moitié dans ce cas précis. les bannissements, déjà, à cette époque-là, représentent 28%, donc près de 30%, on va dire, des cas. Ce qui est une surprise, parce que bannir les gens à l'époque, je vais dire, est une punition qui est considérée comme douce. Même si pour nous, ça paraît catastrophique de tout abandonner, de prendre son baluchon et de partir. Je vais dire, bon, pour l'époque, c'était quand même, disons, moins grave. Alors ici, vous avez, là, sur les... C'était ça que j'avais en tête tout à l'heure. Donc vous avez sur la structure la proportion entre les poursuites et les exécutions. Et donc, en fait, ce que vous avez, donc évidemment, par année, vous avez des pics. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que vous n'avez pas non plus une répression continue. Vous avez une répression par à-coup, vous le verrez par la suite également, donc qui correspond en général parce qu'il y a une dénonciation et qu'on a découvert toute une communauté, surtout à ces époques-là. On trouve une personne en général, on trouve la communauté qui est autour. Et donc vous avez un pic statistiquement. Et puis ça se calme un peu, on ne trouve plus personne ou presque personne, et puis tout d'un coup on retrouve une communauté, donc vous avez un nouveau pic ici. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est la proportion moindre d'exécution par rapport aux personnes qui sont poursuivies. Donc vous avez une proportion qui est quand même assez petite. Alors si vous mettez ça, les pourcentages d'exécution, donc vous avez évidemment l'énorme pic du début, qui est, je vais dire, le tout début de la politique répressive et qui correspond évidemment à une volonté de faire peur. Donc ce qui équivaut à dire que 80% des gens qui étaient arrêtés étaient exécutés. En général, ils étaient brûlés sur place publique pour faire peur, donc pour vraiment, je vais dire, donner un avertissement. On est beaucoup à l'époque, et c'est jusqu'à la Révolution française, on agit comme ça, c'est la vision de la politique. C'est pour ça qu'on fait des exécutions publiques, c'est de montrer l'exemple aux gens, dire fais surtout pas ce qu'il a fait, parce que vous voyez ce qui va vous arriver. Et donc c'est vraiment cette chose-là qui a présidé à ce pic-là. Alors si vous passez à la période suivante, donc qui est la période, je vais dire, à partir du moment où l'Inquisition est bien installée jusqu'au conflit, donc jusqu'à 1566, donc juste avant le conflit. Donc vous avez une espèce, je vais dire, c'est plus régulier, vous avez moins de pics, mais d'un autre côté, ça reste quand même stable. Hein. Vous n'avez pas vraiment d'évolution. Vous voyez qu'il y a toujours moins d'exécutions ou peu. Il y a beaucoup de périodes où on est carrément à zéro. Et puis tout d'un coup, vous avez une explosion 1560. Et ça correspond en fait aux prémices de cette guerre civile, au moment où ces communautés protestantes sortent, je vais dire, à l'air libre, où tout d'un coup elles s'affirment, elles sont plus nombreuses, ils sont plus organisés, ils ont un soutien de l'Angleterre, d'Elisabeth Ier, ils ont un soutien de communautés importantes en Allemagne, donc ils sortent, et à ce moment-là on les voit, et donc effectivement la répression tout d'un coup s'emballe, sans parvenir par la suite, pourquoi est-ce que le pic redescend? Mais parce que simplement, je vais dire, les institutions répressives ne suivent pas. Et donc, vous avez un débordement complet de la structure répressive, et puis finalement, plus personne n'est arrêté, et on laisse les choses en l'état, et je veux dire, de leur point de vue, ça se dégrade. Hein, ils n'arrivent plus à suivre. Donc, même chose. Par contre, au niveau du pourcentage des exécutions, là, vous voyez que l'agressivité du système augmente. Donc, tout d'un coup, on se dit, on va exécuter quelqu'un, puis ça se calme, puis tout d'un coup, là, ils sont de nouveau nombreux, donc on réexécute plus. Puis ça se calme de nouveau. Et vous avez donc ce système en zigzag, je vais dire, qui s'arrête au moment où les protestants sortent à l'air libre. Donc ce qui vous montre bien ici que cette politique répressive, je vais dire, exemplative, ne fonctionne pas. Et ils s'en rendent compte hein, qu'elle ne fonctionne pas, puisque forcément les communautés s'accroissent de plus en plus. Alors, si vous examinez le Conseil des Troubles, donc qui a été créé par le duc d'Albe au moment... Oui, j'avais arrêté. Je suis au bout. Si vous examinez ce qui se passe au moment, à la fin du système, donc quand le système s'effondre au moment de la guerre civile, mais qui ne fonctionne plus et que sa compétence est donnée au Conseil des Troubles, qui lui est un conseil exceptionnel créé pour réprimer la répression nobiliaire, la révolte nobiliaire, mais religieuse également. Donc vous avez ici un gros problème qui est celui qu'en fait on est face à des statistiques qui n'en sont pas. Je vais dire dans le sens où c'est très difficile de déterminer les pénalités qui sont appliquées parce que les archives, même si le corpus en lui-même est complet, les archives ne précisent pas. Donc vous êtes dans une situation d'urgence, vous vous en rendez compte, donc les gens montent exécutés. Ben oui, mais alors on ne sait plus, je vais dire, faire ce genre de proportion. Alors, vous avez ici donc la fin du système, guerre civile, création du Conseil des troubles qui correspond à ce grand pic. Donc, à un moment donné, le Conseil des troubles, pendant à peu près 2 ans, va fonctionner de manière efficace. Et puis, à partir de 1570, ben, c'est la guerre ouverte avec Orange d'un côté et les troupes du duc d'Albe, et puis de Farnèse, etc., de l'autre côté. Donc, vous avez le système qui ne peut plus fonctionner, tout simplement. Le système s'arrête de lui-même. Même si la volonté au niveau de Philippe II subsiste, il voudrait que ça continue à fonctionner. De facto, sur le terrain, ça n'est plus possible. Et donc, vous avez, je vais dire, une disparition complète du système. Et si vous allez, pour terminer, jusqu'au règne d'Albert et Isabelle, donc jusqu'au XVIIe siècle, donc vous avez ici, si vous voulez, à partir des années 1570, au moment où on ne va pas parler de la période d'avant, une augmentation des pardons. Pourquoi ? Parce que, comme le système s'est effondré, que la répression ne peut plus fonctionner, et que d'autre part, les gouvernants sont confrontés au fait que les populations émigrent en masse. C'est l'époque où les artisans de nos régions partent vers l'Allemagne, ils partent vers les Pays-Bas, ils fuient nos régions en guerre, que toute cette main-d'œuvre, tout ce savoir-faire est en train de s'en aller. La seule solution pour la conserver, pour empêcher cette hémorragie, de technologie, comme on dirait aujourd'hui, c'est de pardonner à ces gens et de leur permettre de rester. Et donc, vous allez avoir une politique, à partir des années 1570, de pardon, donc, où Philippe II va dire très clairement « Vous êtes hérétique, vous êtes coupable, nous savons que vous êtes coupable, mais on voudrait quand même bien que vous restiez. Donc, si vous vous convertissez au catholicisme, si vous acceptez de quitter cette religion, vous revenez catholique, eh bien, vous pouvez rester. » Et ça va connaître un énorme succès, comme vous le voyez ici, vous avez un pic en 1575, qui correspond à la pacification de Gand. Donc à un moment clé, phare et important, qui est le premier grand pardon général qui est accordé, aux protestants, pas aux anabaptistes, aux protestants ici, et qui va faire que ces gens vont rester. Ça ne veut pas dire, et je terminerai là-dessus, ça ne veut pas dire non plus que le protestantisme disparaît. Ça veut dire simplement que ces gens, pragmatiquement, vont se dire « bon, je peux rester, je peux continuer mon métier, on ne me confisque rien du tout ». Ben, je vais rester, je vais dire que je suis catholique, j'irai à la messe 4 fois par an. Mais d'un autre côté, moi, dans ma bibliothèque, j'ai toujours l'institution chrétienne de Calvin. Je continue à être calviniste, mais en secret. Et je verrai donc vivre 2 fois, si vous voulez. Une foi catholique de façade, et de l'autre côté, une foi ressentie, une croyance personnelle, mais qui sera cachée. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, à vous la parole.
Je remercie aussi Madame Gossen. Je vous propose tout de suite de poser vos questions, de faire vos remarques.
La différence en justice entre hommes et femmes, c'est quoi exactement? On avait intérêt à être homme ou femme
Je vais dire que malheureusement, il n'y avait pas intérêt ni dans l'un ni dans l'autre. La seule chose, c'est que en général, les femmes étaient traitées avec plus de pudeur, tout simplement. Il y a une relation pudique, au corps de la femme à l'époque. Donc la torture, en général, n'était pas pratiquée ou très peu. Elle était pratiquée que vraiment dans un cas d'extrême, quand la femme ne voulait vraiment pas parler du tout. Ça, c'était une différence. L'autre différence, par exemple, c'est l'image qu'on en a pourtant, c'est des femmes sur le bûcher. Les femmes n'étaient pas brûlées. Pour une raison très simple, c'est que quand vous brûlez quelqu'un, la première chose qui brûle, c'est les vêtements. Et donc la femme se retrouvait nue, exposée à la vue, et ça, c'était pas possible. Et donc on leur réservait un sort qui, pour moi, n'est pas plus enviable. On les noyait dans un tonneau, donc on les enfermait dans un tonneau, et puis on jetait le tonneau dans la rivière, dans le fleuve. À Anvers, ils étaient spécialistes, évidemment. Ils avaient le stein et tout ce qu'il fallait. Donc, c'était pas mieux. C'était différent. Ils avaient une réserve. Ces ecclésiastiques, en tout cas, avaient une réserve face aux femmes qui peut paraître étonnante, mais qui apparaît en tant que telle. Alors que les femmes, quelque part, sont aussi présentes dans les arrestations, dans les exécutions, dans... Elles sont là, elles sont au cœur aussi de la diffusion du protestantisme, puisqu'en général, traditionnellement, c'est les femmes qui font l'éducation religieuse aux enfants. Donc, je vais dire, il y a une petite différence de traitement et de regard, surtout, qui est fait sur elles. Le témoignage, au départ, le témoignage d'une femme était considéré de moindre valeur que par rapport à celui d'un homme. Ça vient du machisme qui prévalait à l'époque, et puis peu à peu, bon, ça a disparu. Et d'autre part, vous avez des femmes qui se revendiquaient également hérétiques, ou je vais dire qui répandaient comme pasteurs aussi. Hein. Calvin n'a pas refusé aux femmes d'emblée le fait d'être pasteur et le fait de tenir des assemblées protestantes. Donc, je vais dire, elles avaient aussi un rôle qui a pris de l'importance au fur et à mesure du temps.
Et le traitement des ecclésiastiques jugés comme hérétiques?
Alors, eux, ils avaient un traitement un peu à part, hein, puisque au départ, on devait les dépouiller de leur état ecclésiastique. Donc, si j'ai bon souvenir, on les dégradait donc physiquement, on leur enlevait tous les insignes de leur état ecclésiastique et on leur brûlait les doigts, le bout des doigts, puisque, je veux dire, ils touchaient les objets sacrés avec le bout de leurs doigts. Donc, il fallait le brûler, détruire ce contact. Qui était fait, et c'est aussi le doigt qui bénit, la main qui bénit. Donc là, ils étaient d'abord dégradés, mais ça par les autorités ecclésiastiques. Ce n'était pas, je vais dire, les autorités civiles qui les dégradaient. Mais une fois qu'ils étaient dégradés, excommuniés, bien entendu, hein, ça va de soi, et puis donc déférés au bras séculier qui, lui, se chargeait de la suite.
À la même époque, dont celle que tu viens de parler, il y a eu le concile de Latran. Alors, tu n'y fais pas référence. Or, à mon avis, mais non, c'est pas un rapport. À mon avis, beaucoup d'instructions qui seront données, puisque c'est un concile de combat.
Tout à fait.
Un concile qui veut combattre l'hérésie, surtout le protestantisme. Et à partir de là, des instructions vont être données aux poursuites à donner à ceux qui vont donc aux inquisiteurs, par exemple.
Oui, mais ici, on est vraiment dans un système particulier, dans le sens où le Concile de Latran va effectivement émettre des instructions, comme tu dis très bien, va être, je vais dire, l'un des principes fondateurs de cette acquisition, je dis, qui a sévi en Italie. Hein. Mais au niveau de Charles Quint, ça a très peu d'influence, parce que lui est déjà bien au-delà. Donc lui, ça ne fait que confirmer qu'il est dans le bon, en fait. Qu'effectivement, il doit continuer à défendre la religion catholique envers et contre tout, et qu'il y a une alliance indéfectible entre lui et entre la papauté et les évêques qui entourent, je vais dire, le pape. Mais dans une vision uniquement idéologique, c'est pas du tout une vision politique. Au niveau politique, ils sont en opposition, puisque Charles Quint se veut le champion de la chrétienté. Et donc tu as une imbrication des deux ici. Même si, idéologiquement, le Concile de Latran se trouve plus haut que les édits de Charles Quint. Mais Charles Quint, ici, il ne s'en préoccupe pas outre mesure.
L'obligation pour les évêques d'aller dans leur évêché, c'est le Concile de Latran.
C'est le Concile de Latran, mais Charles Quint avait déjà émis, préalablement, des conseils en ce sens. Et donc ce n'est jamais... Oui, mais je veux dire, le Concile de Latran, si tu veux, grosso modo, est plus influent pour toute la partie contre-réforme, ce qu'on appelle la contre-réforme, donc l'offensive catholique, dans le premier volet que j'ai expliqué avec la réorganisation des évêchés, etc. Il est plus dans ce volet-là que dans le volet répressif.
S'il vous plaît, la situation des Juifs, ils étaient considérés comme hérétiques ou comment?
Non. C'est-à-dire qu'au début, il y a quelques communautés, notamment à Anvers, à l'époque, qui sont présentes à Bruxelles également. Il y a 2-3 communautés juives, en fait, qui sont constituées de Juifs espagnols qui ont fui l'Espagne au moment de la Reconquista et de la création de l'Inquisition espagnole et qui ont quitté donc l'Espagne puisqu'ils ne pouvaient plus, je veux dire, exercer leur liberté religieuse en Espagne. Ils sont partis dans nos régions. Puisque ce sont des grands commerçants, ce sont des grands financiers en général à l'époque, ils se sont installés chez nous pour continuer simplement leur commerce. Et jusque dans les années 1530, en fait, ils n'ont pas du tout été inquiétés chez nous, parce qu'ils n'étaient pas mêlés à ces idées protestantes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu conjonction, je vais dire, à un moment donné, entre certaines de ces familles et le mouvement protestant. Et donc vous avez eu, je vais dire, c'est assez difficile à se le représenter, mais en fait, il y a eu dans ces familles, je vais dire, des juifs qui sont devenus protestants en quelque sorte, ou qui ont adopté une partie de comportement lié au protestantisme. Vous avez eu un métissage entre le judaïsme traditionnel et des idées protestantes, notamment, je veux dire, si c'était resté à un simple niveau idéologique dans leur petit groupe, ça n'aurait pas posé problème. Le seul problème, c'est qu'ils ont commencé à financer certains mouvements protestants et certaines communautés protestantes. Et là, ça a suscité évidemment l'ire de Charles Quint, dont ils étaient le financier d'ailleurs. Lui allait emprunter chez eux des sommes colossales. Donc il était très content qu'il y avait des communautés juives qui étaient là, mais d'un autre côté, ça le dérangeait parce que idéologiquement, ça posait problème. D'autant que Charles Quint étant roi d'Espagne également, ça posait réellement problème. Enfin bon. Donc tout a été très bien pour eux jusque dans les années 1536-1537. Où Charles Quint, tout d'un coup, totalement désargenté, a eu l'excellente mauvaise idée de leur proposer de financer leur liberté de culte. Donc il leur a dit, si vous voulez continuer à pratiquer votre judaïsme, c'est autant. Alors, certains ont accepté, d'autres ont refusé, donc certains sont partis. Donc ils sont allés vers l'Allemagne à ce moment-là. Certains sont partis vers la Grèce, vers la Turquie, donc vers les pays musulmans qui, eux, étaient là, venez chez nous, nous, on va vous accueillir, vous serez très bien traités. Et il y a eu deux ou trois édits répressifs contre les Juifs qui ont été faits, mais de nouveau, pas sous le vocable juif, vraiment sous le vocable de Maran. Donc, c'est-à-dire de soi-disant... je vais dire catholique, donc, mais qui pratique en secret le culte juif. Et donc vous avez là, je vais dire, un contournement idéologique qui a aussi été fait, qui a permis effectivement d'arrêter les maranes, de les expulser, moyennant confiscation des biens, ce qui arrangeait très bien l'empereur, bien entendu, puisque ces gens étaient extrêmement riches pour la plupart. Et les communautés juives sont parties à terme. Elles ne sont pas restées dans nos régions, elles sont parties. Parce que tout simplement c'était impossible pour eux de pratiquer. En Espagne, on sait très bien qu'il y en a un certain nombre qui sont restés en Espagne et qui ont caché leur appartenance au judaïsme, et que c'est eux qu'on appelle les fameux maranes, donc qui en apparence pratiquaient le culte catholique, mais qui en réalité respectaient un certain nombre ad minima d'impératifs judaïques. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a découvert dans les années, donc au XXe siècle, dans les années 20-30, des communautés, notamment du côté du Portugal, où en fait les gens pratiquaient toujours, ils se disaient catholiques, mais en fait ils pratiquaient certains rituels qui étaient juifs. Et ils ne savaient plus pourquoi. Et ça remontait à l'époque. Donc en fait, ils s'étaient transmis, on leur disait, mais enfin, pourquoi le faites-vous? Pourquoi est-ce que le vendredi soir, vous allumez une bougie, vous ne touchez plus à rien, etc. Pourquoi vous respectez en fait le Shabbat? Et on ne sait pas, on a toujours fait ça, vous ne faites pas ça, vous. Ils étaient très étonnés. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la persistance, à 400 ans de distance, de ces comportements, de pratiques religieuses cachées, qui d'ailleurs, pour moi, est un sujet extrêmement intéressant, qu'on n'a pas tellement... on a plus traité pour les maranes, parce qu'on a trouvé plus de matériel, mais qui, à mon avis, serait intéressant d'être traité aussi pour les protestants dans nos régions, parce que je suis absolument persuadée que vous avez ce genre de comportement. De manière plus fréquente, à mon avis, qu'on ne peut le penser, pour la survie, vous restez catholique pour survivre, pour avoir un métier, pour pouvoir survivre tout simplement, et puis d'autre part, vous pratiquez, dans votre cœur, la croyance qui vous agrée. Il y a des études en Angleterre très intéressantes là-dessus, puisque entre le règne d'Henri VIII et le règne d'Élisabeth Ière, les Anglais ont changé 4 fois de religion d'État. Ils ont tout fait, absolument tout, et ces gens ont survécu. Donc ils ont trouvé au sein de tout ça, ils ont trouvé leur ligne de conduite, ils ont trouvé leur chemin religieux, dans tout ça. Donc c'est possible.
Quel était le sort des enfants des hérétiques condamnés? Est-ce qu'ils étaient soumis à un système de rééducation ou bien est-ce qu'ils étaient condamnés eux aussi?
Alors les enfants de sous 12 ans sont considérés comme étant non matures, donc ils ne sont pas traînés devant la justice déjà. Ils ne peuvent pas témoigner contre leurs parents, ils ne peuvent pas être entendus. Donc, il est difficile pour un enfant de sous 12 ans d'abord d'être qualifié d'hérétique dans ces conditions. Si effectivement on constate que dans une famille qui est déclarée entièrement hérétique, donc je veux dire le père, la mère, les grands-parents, les parents, enfin les tantes, les soeurs, etc., ce qu'on fait effectivement, c'est qu'on retire les enfants et qu'on les confie à des institutions religieuses. Faire, je ne vais pas dire une rééducation, mais en tout cas pour les remettre dans la droite ligne religieuse. Oui, tout à fait. Mais en général, comme les parents soit sont chassés, soit sont exécutés, je vais dire quelque part, ils étaient sauvés quelque part, si vous voulez. Même si c'est difficilement acceptable pour nous, mais il n'y a pas de volonté agressive envers les enfants, du tout. Au contraire de ce qui s'est passé au Moyen-Âge, par exemple, avec les cathares, où on interrogeait les enfants, on exécutait les enfants, etc. Ici, pas du tout. C'est vraiment une affaire, je veux dire, d'adulte, à partir de 12 ans, en tout cas.
Vous avez dit que vous diriez un mot de ce qui se passait dans la principauté de Liège.
Oui. Je vais dire tout de suite, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne pourrais pas aller bien loin, mais simplement dire que le système inquisitorial de Charles Quint n'a pas pénétré dans les territoires, donc sous la dépendance politique de la principauté de Liège. Alors, je vais dire, le principal prince-évêque qui s'en est un peu occupé, c'est Erard de Lamarck. Donc dans les années 1530-1540 jusqu'au début des années 1550. Et ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a ranimé en fait l'inquisition médiévale. Donc il a nommé des inquisiteurs qui étaient chargés, comme dans l'inquisition médiévale, d'enquêter sur le terrain, d'arrêter les gens. Et donc c'était, lui, ses tribunaux ecclésiastiques. Vous direz évidemment, lui, il a la facilité, il combine les deux, il est à la fois homme politique et à la fois religieux, qui poursuivait les protestants. Et donc, vous avez là, je vais dire, vous rendez compte qu'il est très au courant de ce qui se passe. Donc, il est en relation très suivie avec Charles Quint. Donc, il sait très bien ce qui se passe dans les Pays-Bas au niveau judiciaire, au niveau législatif. Il est au courant des édits. Donc, il y a un temps de transfert entre ce que Charles Quint a fait et puis ce que le prince évêque fait. Donc, il y a une liaison entre les deux. Donc, les textes se ressemblent. Mais il n'y a pas cette structure inquisitoriale dans ces territoires-là. Par contre, ils se sont vite rendus compte qu'évidemment, comme le système était totalement différent et peut-être plus perméable du côté de la principauté, les protestants fouillaient vers la principauté en tentant d'échapper évidemment à la justice de Charles Quint. Et là, ils ont établi un accord de collaboration. Donc, je veux dire un peu qu'on dirait aujourd'hui l'extradition. Donc, si vous êtes poursuivi d'un côté, vous êtes aussi poursuivi de l'autre. Et si vous êtes arrêté à Liège, je veux dire, c'est Liège qui va vous juger, mais vous n'échapperez pas à la justice. Donc, vous avez un système comme celui-là qui a fonctionné pour les régions. Et évidemment, c'est assez du côté du Namurois. Vous avez notamment toute une série de villes et de provinces qui n'ont pas été évidemment concernées par le système puisqu'elles dépendaient de la principauté de Liège.
Je reviens sur le principe des autodafés, qui se sont manifestés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pas loin de chez nous en France, où on a brûlé tous les ouvrages de Rousseau.
Oui, mais enfin bon, là, on est dans un autre contexte.
Oui, évidemment, mais attention, c'est parce que les ouvrages de Rousseau aussi étaient imprimés en Hollande et à Genève. Hein,
oui, mais ça, oui, bien
mais
sûr.
Évidemment, ce n'est plus la même situation, mais imprimés en pays protestants.
Tout à fait.
Et deuxièmement, nous nous sommes posé la question, une question de vocabulaire. Qu'entendez-vous vraiment par exécution ?
Mise à mort.
Oui, mais on peut être mis à mort en étant décapité, en étant noyé, en étant brûlé.
Oui.
Oui, mais il y avait un morceau, exécution.
Ça veut dire que là, on ne sait pas définir. On sait qu'ils ont été exécutés, mais excusez-moi, on ne sait pas définir. C'est pas défini dans l'archive. Donc, comme je vous ai dit au début, ils étaient dans les archives, ils étaient très bien tenus parce qu'ils avaient peu de cas. Vous avez beaucoup de détails, vous avez des procédures, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils sont un peu débordés par les choses, et donc les archives deviennent plus lapidaires. Et à la fin, on ne pouvait plus faire ce genre de statistiques qui est toujours un peu hasardeux, hein, entre nous soit dit.
Donc, vous avez parlé des décapités, des brûlés, comme madame vient de dire. Vous avez aussi parlé des escondites. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'escondite, c'est un... Comment je vais expliquer ça ? C'est un pardon public. Donc, c'est-à-dire que vous êtes condamné à vous balader dans les rues, pieds nus, en chemise, avec une bougie, montrer à tous... que vous avez été hérétique, mais que vous êtes revenu dans le giron de l'Église. Donc, si vous voulez, c'est une humiliation publique. Je vais dire ça comme ça. Je n'ai pas le terme exact en tête, mais c'est le terme de l'époque qui a été repris ici. C'est aussi dans une volonté exemplative. Hein. C'est humiliant pour la personne qui le fait, mais c'est aussi exemplatif pour les autres, évidemment. De se dire, oh, pas envie de me balader comme ça. Surtout si vous êtes haut magistrat de votre ville, enfin, donc vous imaginez le juge machin qui se balade comme ça.
Peut-être encore une précision. Vous avez dit qu'on a assimilé les vagabonds à des meurtriers, à des incendiaires.
Oui.
Et mais les gens qui sont bannis sont évidemment vagabonds.
Oui, mais ils ne sont plus dans le territoire, ils sont à l'extérieur.
Ils ne sont plus ?
Ils ne sont plus à l'intérieur du pays, ils sont à l'extérieur. Donc ils sont bannis. Maintenant, s'ils reviennent, ils sont de nouveau condamnables. Hein. Donc ils ne sont pas assimilés à des vagabonds. Je veux dire, vous pouvez revenir dans votre famille, parce qu'on peut très bien condamner deux personnes, et le reste de la famille est considéré comme pur, et donc elle reste. Donc ce que vous avez souvent, et on le constate surtout dans la seconde moitié, donc je veux dire les années 1580, 1590 notamment, beaucoup de gens reviennent en secret. Donc vous avez beaucoup de jeunes gens qui sont condamnés au bannissement, qu'on envoie à l'extérieur des territoires, qui reviennent dans leur famille, qui se cachent, plus ou moins, parce que parfois ce n'est pas le cas, parce qu'on les retrouve. Et je vais dire, la situation va être tellement humainement difficile, je vais dire, ça concerne des milliers de gens. On estime qu'il y a à peu près 80 000 personnes qui ont quitté nos régions. Hein. Donc c'est pas rien. Donc vous avez 80 000 personnes qui quittent un pays, au bout d'un moment vous vous installez ailleurs, vous vous y plaisez pas, ou vous avez laissé votre femme, parce que ça arrive aussi, on casse les familles, les maris partent, les femmes restent avec les enfants, elles n'ont plus de subsistance, etc. Donc vous avez un problème humain important qui va faire aussi que le taux de pardon va augmenter, surtout dans les années 1580-1590. Donc on constate que beaucoup de gens reviennent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les rechasser encore? Les campagnes sont dépeuplées, les villes sont vides, je veux dire schématiquement, c'est la misère partout. On voudrait rebâtir quelque chose, mais il n'y a plus de gens, il n'y a plus de force, je vais dire, de travail. Donc finalement, on accepte que ces gens restent et on les pardonne. Donc c'est une politique qui a eu des conséquences à long terme, je veux dire, hors de ce que Charles Quint a pu imaginer. Il n'a jamais imaginé ça, bien entendu.
Peut-être un petit rappel des grandes différences entre le luthéranisme et le calvinisme.
Oh, la théologie,
enfin, quelques éléments fondamentaux qui expliquent que, bon, surtout, le calvinisme s'est imposé dans les régions francophones, essentiellement en France, et que Luther s'est cantonné dans les...
Je vais dire que la grande différence... Le socle est commun. Hein, donc le socle idéologique est commun dans le sens où, comme je l'ai dit, c'est, comme pour Jean Hus, donc c'est le rejet de l'enrichissement de l'Église, le rejet, je veux dire, de la dichotomie entre « faites ce que je dis et faites pas ce que je fais », donc c'est-à-dire où on dit aux gens de vivre modestement et de respecter Dieu et d'espérer d'être riche et heureux dans l'au-delà. Et à côté de ça, vous avez des monastères extrêmement riches, des ecclésiastiques qui sont, comme on voit sur les gravures, bien bedonnants, bien nourris, etc., qui ne respectent pas du tout le vœu de chasteté, qui ne respectent pas le vœu de pauvreté, ni celui de charité d'ailleurs. Donc ça, c'est le socle de base, je vais dire. Donc il y a une demande de renouveau et de revenir, je vais dire, aux Écritures, aux textes révélés, donc essentiellement au Nouveau Testament, et d'avoir une vie digne de celle du Christ. C'est ce qu'on appelle l'imitatio Christi. Donc une vie modeste, une vie orientée vers la charité, vers, je veux dire, les bonheurs simples, et voilà. Donc ça, c'est le socle de départ. À côté de ça, évidemment, Luther, lui, je veux dire, étant moine, a vraiment connu ce système de l'intérieur et a développé sa lutte contre les indulgences, qui pour lui était l'illustration parfaite de la déviance de l'Église, dans le sens où, normalement, le prêtre est censé être l'intermédiaire entre le croyant et Dieu, et par l'indulgence, lui pardonner ses péchés et lui permettre l'accès au paradis. Là où il y a déviance, c'est que on vend ces indulgences, c'est qu'on monnaie, le salut de l'âme. Et ça, pour lui, évidemment, c'était inacceptable, puisque le Christ n'a jamais parlé de monnayer quoi que ce soit, et bien au contraire, de donner ça à tous et à tout le monde. Donc ça, c'est, je vais dire, le cœur même du luthéranisme. Là où Calvin s'est différencié, c'est que lui a une vision de l'homme beaucoup plus pessimiste, je vais dire, dans le sens où il considère que Dieu, dès le départ, au moment où l'on est, nous avons notre destin tracé. C'est ce qu'il appelle la prédestination. Et donc, quoi que vous fassiez finalement dans votre vie, si Dieu a décidé que vous ne serez pas sauvé, ben vous ne serez pas sauvé. Alors vous me direz, évidemment, dans ces conditions-là, pourquoi être bon, pourquoi être charitable, pourquoi être gentil, puisque forcément on ne sera jamais sauvé. À ça, Calvin répond, d'abord, vous ne savez pas au départ de quel côté vous vous situez. Et deuxièmement, peut-être que Dieu changera d'avis et que malgré tout, vous aurez fait tellement de bien dans votre vie que vous finirez par être racheté. Alors, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas sûr que les gens aient vraiment choisi entre le luthéranisme et le calvinisme. Je ne verrais pas ça comme ça. Je dirais que le luthéranisme est une religion plus intellectuelle, même si elle se fonde sur des faits concrets, de la vente des indulgences, etc. C'est un mouvement qui a plus circulé d'abord dans les monastères, dans les couvents, auprès des ecclésiastiques, qui avaient envie aussi d'un renouveau. Le calvinisme, lui, a bénéficié du fait qu'il s'est structuré autrement. Je vais dire, Calvin, dès le départ, a conçu une république. Bon, il a conçu Genève, il a conçu un système politique qui allait avec un système religieux complet, avec envoi de missionnaires. Je veux dire ça comme ça. Les pasteurs qui étaient envoyés, qui étaient formés soit à Genève, soit à Strasbourg, dans les académies calvinistes, à partir des années 1540 déjà, étaient des théologiens formés pour aller sur le terrain comme les missionnaires qui allaient aux Amériques. Donc, ils étaient dans la même optique de conquête, ce que n'était pas le luthéranisme, qui lui était plus intellectualisant, n'avait pas cette vocation de conquête au départ. C'était plutôt convaincre les gens, une conviction, qu'une religion guerrière. Et donc le calvinisme s'est répandu tout simplement parce que on a eu plein de pasteurs qui sont venus, qui sont rencontrés les gens, qui ont organisé ses prêches dans des endroits publics, qu'ils ont rassemblé les gens autour d'eux, et ça s'est répandu comme ça. Aussi parce que l'imprimerie a été très importante également pour le mouvement calviniste. À Strasbourg notamment, il y avait de grandes imprimeries qui tournaient, je vais dire, 24 heures sur 24, et qui envoyaient une littérature extrêmement abondante, toujours dans cette optique de conquête. Et donc c'est pour ça que nos régions étant proches de la France, on a vraiment été littéralement inondés d'écrits. Donc pour vous donner d'idée, on trouve trace par exemple dans des procédures. On arrêtait un type avec des tonneaux, style 20 tonneaux sur sa charrette. Enfin bon, on ouvre les tonneaux et dans les tonneaux il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas du tout, il n'y a que des livres. Vous imaginez combien de livres on peut mettre dans 20 tonneaux. Hein? Bon, ça vous donne une image, on en arrête un, mais il y en a des dizaines sur les routes. Donc ça vous donne une image aussi de l'ampleur de l'extension de ces écrits calvinistes. Et donc je pense que c'est plutôt à ça que cela tient, plutôt qu'à des raisons purement de choix idéologiques, je vais dire.